Il est 6h57 sur Europe 1, très bon réveil. Je vous retrouve demain dès 5h pour démarrer la journée ensemble. Pour l'instant, c'est Mathieu Béliard qui arrive. C'est le 7-9 qui démarre. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Lundi 16 novembre 2020, soyez les bienvenus sur Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changer. Une troisième semaine reconfinée, l'épidémie qui semble se stabiliser. Ça, c'est pour l'espoir ce matin. Et c'est important de commencer le lundi matin par une note positive. Tiens, et ça tombe bien aussi pour un lundi matin, on va vous faire voyager aujourd'hui. Nous vous proposons un tour d'Europe des stratégies face au Covid. Dispositif spécial sur Europe 1. Dans le journal de 8h, nous serons en direct de Rome, l'Italie, notre sœur, le voisin qui a toujours 2 semaines d'avance sur nos courbes. En direct de Slovaquie, ce matin, fascinant. Toute la population testée et ne sont confinés que les cas positifs. La Suède, sur laquelle beaucoup a été dit, pas de masque, pas de confinement, mais une distanciation physique plus respectée. Nous serons en Suisse aussi, en Finlande, dans le journal à suivre. Comprendre ce que font nos voisins, en tirer des enseignements, parce qu'il va falloir vivre avec le Covid et qu'il faut à la fois anticiper et lutter au présent.
Nous pourrions, certains le préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer.
Voilà ce que disait le président de la République il y a un peu plus de 2 semaines. On va donc voir ce qu'il en est chez nos voisins. Et ce matin, dans cette nouvelle étape de lutte contre l'épidémie, les perspectives françaises. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le professeur Philippe Juvin. Et dans le monde, des réalités différentes, confinement ou non, vous l'avez entendu, ouverture, fermeture des entreprises, des commerces, des écoles, point d'équilibre entre sécurité collective et libertés individuelles. Invité exceptionnel sur Europe 1, la voix française de l'Organisation mondiale de la santé, Sylvie Briand, directrice des risques épidémiques et pandémiques. Les officiels de l'OMS parlent pleu, Sylvie Briand, dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Voilà quelques éléments du programme, 6h59 sur Europe 1.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Bonjour Laurent Cabrol.
Salut Mathieu.
La météo, mon cher Laurent.
Eh bien, c'est une amélioration. Alors, une amélioration qui va aller, adagio, nous pronto. Ça veut dire qu'elle va pas se dépêcher quoi.
On va faire un peu d'italien avec Stéphane Bern tout à l'heure. Vous allez rester à l'écoute.
Ah bon, d'accord, oui, plaisir.
Je vous le dis comme ça.
Donc nous allons vivre une amélioration qui sera progressive et lente. Ce matin, il y a pas mal de nuages, il y a du vent, nous avons des pluies près des frontières, tout ça. Mais dans le courant d'après-midi, on peut dire que pratiquement toute la France, excepté la Lorraine, l'Alsace, la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté, qui seront des régions encore nuageuses et légèrement pluvieuses, mais partout ailleurs, les éclaircies vont s'imposer avec du vent qui va venir du nord, un vent assez fort parfois, notamment dans le sud, autour de 50 à 70 km/h. Donc c'est une journée plutôt sympa pour un automne, les températures maximales entre 13 et 17 degrés, un petit peu comme hier.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer. Il est 7h.
C'est ce que tout le monde espère, c'est-à-dire que effectivement, vers la fin de semaine, on arrive au pic d'admission et de présence en hospitalisation ou en réa.
Lueur d'espoir pour les professionnels de santé, moins de contamination, moins d'entrée en réanimation. Olivier Véran l'affirme ce matin, nous reprenons le contrôle sur l'épidémie. Produits essentiels ou pas, c'est toute la question. Les contrôles se multiplient dans les rayons des grandes surfaces. Une règle et des interprétations diverses et variées. La fronde des catholiques contre l'interdiction d'assister à la messe. Des manifestations hier dans plusieurs villes de France, notamment à Versailles.
L'âme a vraiment besoin de se nourrir spirituellement. On a besoin d'aller à la messe et de recevoir Jésus.
Dans ce journal, le procès d'un homme passé du statut de mari éploré à celui de meurtrier, selon son avocat Jonathan Daval, subissait des violences psychologiques. Et puis l'énorme carton des jeux vidéo pendant le confinement, 36 millions d'adeptes et 700 000 petits nouveaux.
Juste après ce journal, en Angleterre, Boris Johnson veut interdire la vente de véhicules thermiques dès 2030. Le monde change dans l'éclairage éco de Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouette, la crise de l'équipe de France féminine de football. Rien ne va plus entre les joueuses et la sélectionneur Corinne Diacre, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et avant d'évoquer les chiffres encourageants en France, place au tour d'Europe des stratégies anti-Covid qu'Europe 1 vous propose ce matin. On va s'intéresser à 2 pays aux situations radicalement différentes. Bonjour Isabelle Horry, vous êtes en direct de Bruxelles.
Bonjour.
D'abord la Finlande, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la meilleure élève d'Europe.
Et oui, moins de 20 000 contaminations depuis le début de l'épidémie, 369 morts au total. Et pourtant, pas de confinement, des bars et des restaurants ouverts. Pourquoi ? Eh bien d'abord, les autorités étaient bien préparées, ça s'est vu dès la première vague. Ensuite, un Finlandais sur deux a téléchargé l'application de traçage. La confiance envers le gouvernement est forte, les Finlandais respectent les mesures barrières. Le télétravail est très répandu. Enfin, la Finlande est à l'extrémité de l'Europe et elle a quasiment fermé ses frontières. Il y a donc moins de mouvements de population.
Alors, c'est tout le contraire de la Suisse, en plein cœur de l'Europe, là, et qui voit exploser le nombre de cas.
Et oui, les cantons suisses romandes et surtout Genève sont les zones les plus contaminées d'Europe. Coup dur pour la Suisse, hein, réputée pour son efficacité. Chaque canton prend ses mesures dans son coin. Les médias parlent d'un fossé du corona, car la région alémanique, moins atteinte, rechigne à l'idée de mesures nationales fortes. La Suisse préfère l'austérité à la vie, a titré le site Foreign Policy. En septembre, le ministre des Finances a affirmé que les pays n'avaient pas les moyens d'un deuxième confinement, alors que c'est l'un des plus riches au monde.
Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe 1.
Et après la Finlande, la Suisse dans le journal de 8h, coup de projecteur sur trois pays et trois stratégies radicalement différentes, la Slovaquie, l'Italie et la Suède.
Ici en France, tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique. C'est le ministre de la Santé lui-même qui le dit ce matin dans plusieurs journaux régionaux. Olivier Véran assure que nous reprenons le contrôle.
Et les chiffres le prouvent. 270 entrées en réanimation en 24 heures, chiffre le plus bas depuis 3 semaines. Et depuis 10 jours, on constate une réelle baisse des contaminations. Les indicateurs sont au vert, Victor Delande.
Oui, le taux d'incidence a baissé de 14% en une semaine. Il est actuellement en dessous des 400 contaminations pour 100 000 habitants, même si les laboratoires ont réalisé 600 000 tests de moins que la semaine précédente. Les infections reculent dans toutes les classes d'âge, avec une prime pour les 15-44 ans, moins 19% en 7 jours. Sur le terrain, les interventions de SOS médecins pour des suspicions de Covid ont chuté de près de 20%. Si cette tendance se poursuit à la baisse, on devrait pouvoir observer bientôt une baisse des hospitalisations, comme l'explique Alexandre Bleptreux, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
C'est ce que tout le monde espère, c'est-à-dire qu'effectivement, vers la fin de semaine, on arrive au pic d'admission et de présence en hospitalisation ou en réa.
Attention tout de même aux disparités entre régions. Si ça va beaucoup mieux en Ile-de-France, où le nombre de cas a chuté ces derniers jours, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont encore dans le rouge, avec des départements comme la Savoie et la Haute-Savoie qui dépassent les 1000 contaminations pour 100 000 habitants.
Merci Victor Delande.
Dans les supermarchés, on achète de la nourriture et des produits de première nécessité, mais, et ça vous l'avez constaté, bien sûr, de nombreux rayons sont fermés.
Eh oui, les livres, les vêtements, les jouets ou le gros électroménager, l'interprétation de ce qui est essentiel ou ne l'est pas peut parfois varier. Ce sont donc les agents de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, qui veillent. Et parfois, ils sanctionnent. Diane Berger les a suivis dans un hypermarché de Melun en Seine-et-Marne.
Là, on voit qu'il y a des pyjamas, en plus un petit peu fantaisie. Ça, typiquement, on n'est pas dans du bien de première nécessité. Il va falloir l'occulter et le réserver pour le click and collect.
Axel Bull fait le tour des rayons de cette grande surface. Des contrôles comme ça, son équipe en réalise une quarantaine par semaine. En face, le responsable du magasin tente de se défendre.
Je vois donc un rayon où il y a des cartes, un rayon papeterie.
Ça fait partie du rayon presse qui est considéré essentiel. Du coup, on l'a laissé.
Peine perdue. Le secteur papeterie devra fermer. Quelques mètres plus loin, c'est déjà le cas du rayon jouet. Bon point pour l'établissement, mais un autre désaccord émerge, cette fois devant des bacs de serviettes de bain.
On a interprété, nous, que c'était de la salle de bain et donc des produits essentiels.
Ça rentre plutôt dans la catégorie du linge de maison. On ne peut pas considérer qu'on est dans le cadre d'un produit de première nécessité.
À la fin de la visite, pas de sanction pour l'instant. Soufiane, l'un des inspecteurs, croit en la bonne foi de son interlocuteur.
Il a des petits manquements qui sont mineurs. Je pense que ça part d'une mauvaise compréhension du texte. On est là pour apporter des précisions dans un aspect, encore une fois, pédagogique.
Une nouvelle inspection aura lieu dans quelques jours et si les manquements continue, l'hypermarché risque des sanctions, jusqu'à 3750 euros d'amende, voire la fermeture administrative. Melun, Diane Berger, Europe 1.
Vous vous rendez compte, hein, au micro de Diane Berger, le caractère absurde, on n'est pas là pour dire si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ces mesures-là, mais le caractère extrêmement complexe, en tout cas pour ceux qui doivent gérer dans le supermarché ce qu'on a le droit de vendre ou non. Rendez-nous la messe, c'était le mot d'ordre des catholiques en colère qui manifestaient dans plusieurs villes hier contre l'interdiction d'assister à la messe.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et Jean Castex vont d'ailleurs rencontrer aujourd'hui les représentants des cultes en visioconférence. Des manifestations donc hier à Bordeaux, Nantes, Rennes, Marseille, Toulouse ou encore à Versailles, où ils étaient environ un millier sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis. Caroline Baudry. Liberté de pratiquer leur culte, exige ton cœur près d'un millier de catholiques réunis face à l'église. Parmi eux, Catherine, mère de famille versaillaise. Sa foi passe avant tout, malgré l'épidémie.
L'âme, pour le coup, elle a vraiment besoin de se nourrir spirituellement. Et nous, catholiques, on croit à la présence réelle, qu'effectivement, au moment de la messe, Jésus est là. On a besoin d'aller à la messe et de recevoir Jésus.
Un sacrement vital, raconte ses croyants, impossible à vivre par écran interposé. Grégoire, 23 ans, béré sur la tête, hurle à l'incohérence. Pour lui, le risque sanitaire est maîtrisé dans une église.
On va se laver les mains, tout le monde a un masque, à une distance sociale respectée. C'est une question de responsabilité. Nos ministres insistent sur l'essentialité de nos vies. Pour nous, ça ne se résume pas aux courses que l'on va faire et au travail que l'on réalise.
Des politiques déconnectées d'une vie spirituelle, refuge en temps de crise, insiste Françoise, 72 ans.
Je pense que le ministre ne se rend pas compte de la profondeur du malaise qu'il a organisé comme ça. Eh ben, on sera là tout le temps, on ne lâche rien.
Je suis prête à investir les ronds-points, comme l'ont fait les Gilets jaunes, poursuit cette dame âgée, qui espère qu'un accord sera trouvé aujourd'hui entre le clergé et l'exécutif.
Les catholiques, les représentants du culte, hein, d'une manière générale, face à Gérald Darmanin et Jean Castex, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou à 7h50 tout à l'heure.
Et puis trois personnes sont en garde à vue ce matin après la fête clandestine organisée ce week-end dans une maison de Joinville en banlieue parisienne, notamment le propriétaire et l'organisateur de cette soirée qui avait réuni 300 à 400 personnes. Au moins l'un des participants étant positif, la préfecture leur demande à tous de se faire tester.
7h08 sur Europe 1. C'est l'un des procès les plus attendus de cette année. Il s'ouvre ce matin. Jonathan Daval, cet homme accusé du meurtre de son épouse, Alexia, il y a 3 ans, à Grès, en Haute-Saône.
Oui, un mari, le visage baigné de larmes, soutenu par ses beaux-parents, qui finit par reconnaître le meurtre avant de revenir sur ses aveux et de reconnaître à nouveau les faits. Arthur Elmbaché, vous êtes à Vesoul, bonjour.
Bonjour.
Vous allez suivre cette semaine d'audience devant les assises de Haute-Saône. Dans le box, ce matin, un accusé qui a, disons, un rapport à la vérité complexe.
Oui, cet homme qu'on a vu il y a 3 ans jouer cette comédie terrible quand, une rose à la main, face aux caméras, il pleurait dans les bras du père d'Alexia, Jean-Pierre Fouillot, qui aujourd'hui attend juste d'entendre dans la salle d'audience le mot « coupable ».
On doute de tout ce qu'il nous a dit maintenant. J'aimerais qu'on arrive à tirer un petit peu les vers du nez de ce gars-là, qu'il reconnaisse les faits réels. Les vrais détails, pas ceux qu'il a annoncés depuis 3 ans, et ce n'est que mensonge sur mensonge.
C'est vrai qu'il a beaucoup menti, reconnaît l'avocat de Jonathan Daval, Randall Schwerdorfer, qui a l'intention cette semaine de dresser le portrait d'une Alexia, auteure de violences psychologiques.
Alexia est une victime, mais Alexia n'est pas une icône immaculée qui n'avait pas de défauts, qui n'avait pas sa personnalité. Les responsabilités des dysfonctionnements d'un couple sont souvent partagées. On ne fera l'économie ni des qualités et des défauts de Jonathan, ni des qualités et des défauts d'Alexia, et elle en a.
Jonathan Daval, garçon gentil, effacé, soumis, qui, après un énième reproche, la remarque de trop, a craqué. Voilà la ligne de la défense qui refuse d'entendre parler de féminicide.
Arthur Elmbaché à Vesoul pour Europe 1, où le procès s'ouvre tout à l'heure à 9h. Autre procès, cette fois, devant les assises spéciales de Paris, celui du terroriste qui avait tenté de commettre un attentat à bord d'un Thalys, Amsterdam-Paris. Il avait blessé 2 personnes avant d'être désarmé par des passagers du train. On va y revenir dans le journal de 7h30.
Aujourd'hui commence la 24e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées.
Et c'est le chanteur malvoyant Gilbert Montagnier qui lance ce matin un appel aux employeurs sur Europe 1. Il était l'invité de Sébastien Krebs à 5h. 40.
Vraiment, les employeurs, là, c'est le moment d'être particulièrement solidaires, surtout parce qu'on vit tous en ce moment le Covid. Il faut que maintenant, vous gommiez vos peurs et que vous adressiez au MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, qu'il y ait un lien fort et puis essayez la personne. Faites comme moi j'ai fait quand j'ai voulu intégrer un lycée où j'étais le premier non-voyant dedans. J'ai dit au directeur, écoutez, essayez-moi, soit je fais l'affaire, vous me gardez, sinon vous me jetez. Bon, ben c'est pareil, n'ayez pas peur, c'est important que vous participiez à ça. Parce que les personnes handicapées ne demandent qu'à être considérées comme une personne à part entière. Et c'est ça qui est important.
Voilà les mots de Gilbert Montagnier ce matin sur Europe 1 avec Sébastien Krebs.
Et alors vous avez fait quoi, vous ? Ce week-end, entre balade d'une heure maximum et course, pas toujours évident de s'occuper, surtout avec des enfants. Voilà qui explique le boom des jeux vidéo.
Et oui, ils avaient déjà la cote pendant le premier confinement. Eh bien, ça se confirme, Clément Le Saffre. Toujours plus d'adeptes qui jouent plus longtemps.
Oui, sur les 36 millions de Français adeptes du jeu vidéo, un tiers affirme avoir joué plus qu'avant pendant le premier confinement. Et 700 000 curieux ont tout simplement découvert les jeux vidéo lors de cette période un peu spéciale. C'est ce que révèle l'étude annuelle du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Mais plus que les nouveaux venus qui ont cherché à occuper leur temps, Nicolas Vignol, délégué général du CEL, retient que le confinement a permis aux joueurs occasionnels de s'ouvrir à d'autres facettes des jeux vidéo.
On a assisté à une forme de fidélisation de celles et ceux qui avaient déjà un peu goûté aux jeux vidéo, par exemple sur mobile, à l'occasion d'un trajet en métro. Bah là, ils ont trouvé dans ce confinement une occasion de jouer un peu plus, de découvrir peut-être des jeux différents, d'autres univers, d'investir parfois dans une console ou dans un abonnement en ligne.
Autre enseignement de cette étude, un joueur sur trois déclare que les jeux vidéo lui ont permis de garder le contact avec ses amis ou sa famille, et c'est encore plus marqué chez les enfants qui jouent plus en réseau que les adultes. Enfin, le confinement a bouleversé nos habitudes d'achat avec l'impossibilité d'acheter des jeux en magasin. Les Français se sont mis au dématérialisé. Le digital est désormais le support préféré de 31% des joueurs contre 24% l'an dernier.
Clément Le Saffre.
Jouez-vous, Hélène Zélani, aux jeux
J'avoue
vidéo ?
J'avoue que non.
Non ? Ouais, c'est marrant ce sujet. Je me suis mis ce week-end avec ma fille.
C'était juste en hommage.
Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va y aller avec eux. Il faut bien essayer. Finalement, Hélène Zélani, le journal de 7h. Merci Hélène, 7h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et on lève le nez ce matin. Comment nos voisins gèrent-ils cette crise ? Qu'est-ce qui marche surtout ? On est à la recherche de solutions, bien sûr. Il va falloir vivre avec le virus sur le temps long, a dit Jean Castex, mais tout le monde ne vit pas de la même manière avec le Covid. Tour d'Europe des stratégies sur Europe 1, des pays qui nous ressemblent mais qui font différemment. C'est dans le journal de 8h tout à l'heure. Et avant cela, une voix qui compte, celle de Sylvie Briand, directrice des risques épidémiques et pandémiques à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco. Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1.
Région de Job vous présente l'éclairage éco. Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région de Job.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos, Nicolas Barré. La fin des voitures à essence ou diesel se rapproche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson veut interdire ce type de véhicule dès 2030.
Oui, alors il se découvre un peu une vocation d'écolo actuellement.
Je n'osais pas le dire. Côté Boris Johnson, c'est presque l'info la plus surprenante.
Oui, alors il est un peu en difficulté aussi, il faut dire, sur le plan politique en ce moment, puisqu'il a perdu beaucoup de soutien conservateur. Et donc il veut reprendre la main. Il va annoncer cette semaine une série d'initiatives vertes, dont une, effectivement, retient particulièrement l'attention, l'interdiction de la vente des voitures à essence ou diesel neuf à partir de 2030. L'histoire s'accélère parce que l'an dernier, le Royaume-Uni avait fixé cet objectif à 2040. En février, ils étaient revenus à 2035. Et puis maintenant, donc, c'est 2030. Qui dit mieux ? À part la Norvège qui veut y arriver dès 2025, aucun grand pays ne s'est donné un objectif aussi rapproché.
Peut-être qu'avant la fin de cette chronique, Boris Johnson annoncera 2025 lui aussi à ce rythme-là. Parce que là, ça va mettre la pression sur les autres.
Oui, mais alors ce qui surprend dans le cas britannique, contrairement à un petit pays comme la Norvège, c'est qu'ils ont une industrie automobile importante et qui plus est, déstabilisée par le Brexit. Cette interdiction des véhicules thermiques à un horizon aussi rapproché ne va donc pas arranger leurs affaires. J'ajoute que dans son élan écolo, Boris Johnson prévoit aussi d'interdire les véhicules hybrides à peine plus tard, en 2035. Ce qui fait qu'on peut se demander si le volontarisme du Premier ministre britannique ne risque pas de se heurter à la réalité industrielle. On ne transforme pas comme ça toute une filière en un claquement de doigts. Et l'électrique est très loin de pouvoir remplacer les véhicules thermiques. Toyota et Honda, qui produisent des hybrides au Royaume-Uni, ont d'ailleurs déjà fait savoir que le calendrier mis en avant par Londres était irréaliste.
Ce qui n'empêche pas le gouvernement britannique de miser plus que jamais sur l'électrique.
Oui, et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce virage vers la voiture électrique s'inscrit en fait dans un plan beaucoup plus large. Le Royaume-Uni, qui accueillera la COP26 à Glasgow l'an prochain, veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Et il est bien passé pour y arriver. Pourquoi ? Grâce à des investissements massifs dans deux directions, l'éolien et le nucléaire. Car les deux sont complémentaires. Le nucléaire est la seule source d'énergie décarbonée qui peut pallier les intermittences du vent et du soleil. Dans cette perspective, Boris Johnson devrait annoncer d'ailleurs des financements pour des petits réacteurs nucléaires, en plus des EPR en construction. La stratégie du Royaume-Uni, vous le voyez, a le mérite d'être cohérente et même plus ambitieuse que celle du reste de l'Europe, au risque, et c'est tout de même un problème majeur, de sacrifier au passage une bonne partie de l'industrie automobile locale. Morale de l'histoire, la transition énergétique n'est pas un fleuve tranquille, elle fera des victimes.
Merci Nicolas Barré. 7h19.
L'éclairage éco vous a été présenté par Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous ? Trouvez votre futur employeur avec plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas.
Recep Tayyip Erdogan enterre la réunification entre chypriotes turcs et chypriotes grecs. Il veut des négociations sur la base de deux États séparés et il est allé sur place pour l'annoncer.
Oui, il est en terrain conquis dans la République turque de Chypre Nord, qu'il est d'ailleurs le seul à reconnaître. Ça fait près de 50 ans que la Turquie maintient à bout de bras cet état croupion. Son armée a débarqué en 1974. Entre 30 et 40 000 soldats y campent en permanence et plus de 120 000 colons venus d'Anatolie y ont été implantés. Le temps et la démographie aidant, ils sont majoritaires. Les Chypriotes turcs sont désormais en minorité chez eux et en prime, ils subissent depuis l'arrivée d'Erdogan au pouvoir le rouleau compresseur de l'islamisation avec l'envoi d'imams, la construction de mosquées et la fièvre nationaliste. Alors cet été, un protégé d'Erdogan a gagné les élections. Conséquence, Erdogan pousse son avantage. Il rejette la réunification avec la partie grecque. Plus question d'État fédéral, il veut des négociations entre deux États séparés. Comme ça, les Turcs pourront mettre la main sur le gaz offshore qui est pompé au large de Chypre.
Alors hier, il n'a pas hésité devant la provocation.
Il est allé pique-niquer à Varosha. Alors c'est une ville fantôme, une station balnéaire grecque que les Turcs ont conquise et bouclée pendant 46 ans. Comme une sorte de gage qu'on se garde sous le coude. Hier, il pleuvait, Erdogan a dû renoncer aux galettes sur la plage, mais aller à cet endroit pour enterrer la réunification, c'est violer deux tabous à la fois, c'est un bras d'honneur aux résolutions de l'ONU, aux milliers de casques bleus qui campent sur la ligne de démarcation depuis parfois trois générations.
Et puis, c'est un défi à l'Europe.
Mais Chypre est membre de l'Union européenne, la Turquie ne le sera jamais. Mais Erdogan sait que la petite République chypriote pèse peu au Conseil européen, que l'Allemagne est là pour la faire taire. Angela Merkel a 3 millions de Turcs à domicile et ne veut jamais froisser Ankara. Dans la guerre au Karabakh, Erdogan a défié la Russie. En Libye, il a défié les Arabes. À Chypre, il défie les Européens. La fuite en avant va continuer. L'économie turque est au bord de l'effondrement. Mais pour l'instant, la reconquête avance.
Merci Vincent Hervouet, 7h21. À suivre, crise aiguë chez les Bleus. L'équipe de France féminine de football voit ses stars se tourner contre la sélectionneur Corinne Diacre. Amandine Henry, capitaine, 92 sélections.
Quand la sélection approche et que tu vois ton nom sur la liste, t'as deux sentiments qui te partagent. T'as la joie et t'as la crainte.
Corinne Diacre doit partir, dit Virginie Fulpin. L'édito sport, c'est dans une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Amandine Henry se paye Corinne Diacre. La capitaine de l'équipe de France de football a mis en cause la sélectionneuse. Alors il y a débat, sélectionneur ou sélectionneuse, chacun choisira. Et sa gestion surtout des Bleus hier soir lors d'une interview sur Canal+. Pour vous, le point de non-retour est atteint. Corinne Diacre doit partir.
On peut plus faire comme si c'était juste une petite inimitié entre certaines joueuses et leurs sélectionneuses. Il y a un vrai problème, et de taille, en équipe de France. Quand la capitaine prend la parole pour dire tout le mal qu'elle pense des méthodes et des relations humaines de Corinne Diacre avec son groupe, pour raconter les larmes des joueuses pendant la Coupe du Monde, on doit l'écouter. Surtout qu'il faut du courage à Amandine Henry pour le faire. Elle prend un risque. De telles déclarations peuvent entraîner la fin de sa carrière internationale. Mais elle l'assume en plaçant l'équipe de France au-dessus de ses ambitions personnelles. Si moi je ne parle pas, qui le fera ? Oui, elle a un statut, elle est capitaine des Bleus, ça fait partie de son rôle d'exprimer le mal-être de l'équipe. Elle a une histoire en bleu, Amandine Henry a 31 ans, des années d'équipe de France derrière elle, et puis elle a des résultats. C'est une joueuse de l'Olympique Lyonnais, elle est 7 fois championne d'Europe. Des raisons de ne pas prendre ses paroles à la légère, il y en a plein, surtout qu'elle a aussi été personnellement touchée par le management de Corinne Diacre lors des derniers matchs des Bleus, quand la sélectionneuse lui a téléphoné pour lui dire froidement qu'elle n'était pas sélectionnée, vu sa forme du moment. L'humiliation n'est pas une méthode de management. Ça suffit avec ça.
Il devient urgent de trouver une solution.
Il n'y en a pas 50, on en a déjà parlé ici. Quand on arrive à ce point de non-retour, Corinne Diacre doit soit changer radicalement, soit être remplacée, parce que les Bleus ne gagneront pas dans cette ambiance. Je ne suis pas sûre que la sélectionneuse soit vraiment capable de changer, on s'en serait rendu compte avant, donc il ne reste plus que le départ. Alors le président de la Fédé, Noël Le Graët, appelle au calme. Il va surtout devoir agir maintenant, parce qu'on n'aurait jamais dû en arriver à ces règlements de compte en public. Ça n'est quand même pas aujourd'hui qu'on découvre le problème. Pourquoi avoir laissé la situation pourrir ? Ça n'allait pas se régler tout seul. Et je trouve dommage d'en arriver là, parce que ça entache l'image de l'équipe de France, et peut-être même l'image du sport féminin. Il y a forcément des petits esprits qui vont ironiser sur le crépage de chignons en place publique, et vraiment, on n'a pas besoin de ça. Il est trop tard pour appeler au calme, il faut trancher dans le vif.
Oui, trop tard pour le calme, ça m'a l'air foutu. Alors, j'ai entendu pour tout vous dire, citer Noël Le Graët qui disait « ça ne peut plus durer ». Quand j'ai regardé la citation, ça n'est plus durable. C'est pas tout à fait la même chose. Noël Le Graët, il n'est pas encore...
Oui, mais alors après, c'est peut-être pas publiquement qu'il le fera, mais en tout cas... Il est nécessaire de faire quelque chose, là, oui, je crois.
L'édito sport de Virginie Fulpin. Merci beaucoup, Virginie. Il est 7h27. Un mot, peut-être, Virginie, j'en profite puisque je vous tiens avec nous. Un mot, quand même, de Lewis Hamilton. Je voulais éventuellement passer un petit extrait qu'on entende un peu de Formule 1, mais simplement, on est quand même sur le champion du monde qui égale Michael Schumacher sur les championnats du monde, mais qui l'a déjà dépassé, on en a beaucoup parlé. Vous dites que c'est le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps.
Il y a forcément un débat, mais déjà sur les chiffres, il n'y en a plus de débat. Et puis il y a aussi la personnalité de Lewis Hamilton, on aura l'occasion d'en reparler.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h27. Stéphane Bern est avec nous, comme tous les jours avec Stéphane, on parle d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En ces temps de confinement, où pour certains c'est l'occasion de ralentir le rythme, j'avais envie de me pencher sur une expression que vous connaissez bien, y aller mollo. Y aller mollo, pourquoi mollo ?
Alors on imagine que ça vient de, je sais pas, de mou, molle, mollo. C'est de l'italien, non Stéphane ?
Exactement Mathieu, c'est de l'argot italien même. Cela vient de mollare qui signifie abandonner. Mollo, c'est laisser tomber, lâcher, on lâche prise. Mais aussi mouiller, tremper. Et là, c'est là que c'est très amusant parce que, coïncidence ou pas, en français, en langage marin, quand on pouvait prendre une barque et gagner la mer à la rame, on disait « aller à la molle eau ». L'eau est calme, on navigue doucement, on y va, molle eau. Tout se recoupe, vous voyez ? Quand on y va mollo, on ne se fatigue pas et généralement, on fait mieux les choses, comme le dit le célèbre proverbe italien « qui va piano, va sano ». Un proverbe grec, lui, dit « quiconque se dépêche, trébuche ». Aux États-Unis, « slow and steady wins the race », qui va lentement et régulièrement gagne la course. Je ne sais pas si ça a inspiré Joe Biden, mais pour finir, en Pologne, existe également un très joli dicton « la hâte est indiquée seulement pour attraper les puces. »
Stéphane, on vous retrouve tout à l'heure entre 16h et 18h avec Mathieu Noël.
Oui, absolument. Au programme aujourd'hui, on réunit trois auteurs de journaux intimes qui nous en disent autant sur eux que sur le contexte historique. Le plus célèbre, vous le connaissez, c'est la plus jeune aussi, c'est Anne Frank. Ensuite, l'anglais Samuel Pepys et celle qui tient son journal dans un lieu gardé depuis de très nombreuses années, c'est la reine Elisabeth II. Mathieu Noël va nous dire avec sa plume à lui ce qu'il peut bien contenir. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël tout à l'heure, 16h-18h sur Europe 1.
À tout à l'heure, 16h. À 7h29, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Vous avez dit mollo. ça tombe vraiment bien, parce que l'amélioration, chez nous, on dira mollo, pomme chip et tout. Et elle sera vraiment de... Il faudrait demander ce que ça veut dire, pomme chip, tiens. Stéphane, mollo, pomme chip et tout, c'est l'amélioration de cette perturbation qui va nous conduire quand même cet après-midi. Allez, soyons optimistes, vers des éclaircies. Alors, il y a des petites gouttes ici ou là. Il y en a en Haute-Normandie, il y en a en région parisienne. Nous en avons aussi dans le sud-ouest. Mais tout ceci va disparaître au fil des heures, puisque l'anticyclone est en train de gonfler. Et lorsqu'il sera bien, eh bien, nous auront un temps beaucoup plus serein. Ce sera le cas à partir de 13 ou 14 heures. On dirait qu'il serait temps, mais enfin, ce sera le moment de l'après-midi et nous aurons un après-midi plutôt sympathique avec du vent sur le littoral méditerranéen autour de 40 à 50 km/h. Et les températures, somme toute, pas trop désagréables, entre 13 et 17 degrés dans le courant de l'après-midi, 14 à Paris, 15 à Lyon, 16 à Toulouse et 17 à Bordeaux.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
J'ai vu un terroriste qui venait vers moi et qui portait devant lui un Kalachnikov. Je n'allais pas rester là, assis, à ne rien faire et attendre d'être mitraillé.
C'est l'un des héros méconnus de l'attaque du Thalys il y a 5 ans. Témoignage de ce Britannique de 62 ans au moment des faits qui a permis d'éviter le massacre. De nouvelles fonctionnalités sur l'application Tous Anti-Covid. Le gouvernement veut booster le nombre de téléchargements, près de 9 millions en ce moment. Il y a des secteurs qui ne connaissent pas la crise. Le BTP, la santé, l'informatique recrute en ce moment. Et puis favoriser l'insertion professionnelle des personnes atteintes de handicap en leur permettant de travailler. C'est le projet du centre de formation créé par les Cafés Joyeux.
Juste après ce journal, Sylvie Briand, directrice à l'OMS des risques épidémiques et pandémiques, invitée du tête-à-tête Europe Matin dans 10 minutes. Les catholiques sur le front pour rouvrir les églises à la messe en public. L'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de la matinale. Ce matin, le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Il est 7h31.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Ce trajet Amsterdam-Paris aurait pu virer au carnage le 21 août 2015. Ayoub El Kazani, un terroriste marocain, avait pris place à bord d'un Thalys lourdement armé pour commettre un massacre. Un bain de sang évité de justesse grâce à l'intervention héroïque de plusieurs passagers qui ont réussi à l'immobiliser. Trois militaires américains en vacances, mais aussi, moins connu, Christopher Norman, un Britannique de 67 ans aujourd'hui.
J'étais en train de travailler sur l'ordinateur. J'ai regardé, en fait j'ai vu un terroriste qui venait vers moi, torse nu, barbe, et qui portait devant lui un Kalachnikov. Et j'avais très très peur. Et puis je me suis mis debout et j'ai vu que il y avait essentiellement un tas de gars par terre en train de se battre. Et c'était effectivement le terroriste qui a été attaqué par deux Américains. J'étais un peu dans le tas. J'ai pris son bras, je l'ai mis derrière son dos. J'ai demandé de quoi ligoter le terroriste. J'étais pas le seul à agir. De toute façon, j'allais pas rester là, assis, à ne rien faire et attendre d'être mitraillé. À un moment donné, j'avais son visage droit devant moi. Ses yeux étaient complètement vides. C'était noir et vide. Et j'étais en train de me demander qu'est-ce qu'ils ont fait à ce type pour qu'il agisse comme ça. Ce que j'attends, en fait, plutôt du procès, c'est essayer de comprendre ce qui lui a amené à agir comme ça. Pour moi, il faut remonter à la source de tout ça pour essayer de savoir comment on peut endiguer ça.
Témoignage exceptionnel de Christopher Norman au micro européen de Gladys Laffitte. Le procès d'Ayoub El Kazani s'ouvre aujourd'hui. Accusé de tentative d'assassinat terroriste, il encourt la prison à vie.
Autre procès très attendu, lui aussi, qui démarre aujourd'hui. Celui de Jonathan Daval devant la cour d'assises de Haute-Saône.
3 ans après le meurtre de son épouse Alexia, il avait mis en scène son chagrin lors de la marche blanche en mémoire de la victime. Avant de reconnaître les faits peu de temps après, Jonathan Daval risque la réclusion criminelle à perpétuité.
L'épidémie de Covid en France, la situation reste tendue dans les hôpitaux, mais plusieurs signaux portent à croire que nous avons passé un pic épidémique.
C'est en tout cas ce qu'affirmait hier Olivier Véran. Le nombre de contaminations ainsi que le taux d'incidence du virus sont en baisse. Le ministre de la Santé reconnaît tout de même qu'il est encore trop tôt pour crier victoire et relâcher nos efforts. Des recommandations que n'entendent pas les milliers de catholiques qui se sont une nouvelle fois rassemblés dans plusieurs villes françaises hier. Rendez-nous la messe, disent-ils, réclamant le retour des offices en public interdits pendant le reconfinement. Les représentants des culte ont rendez-vous aujourd'hui avec le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Si on ne connaît pas encore la date du déconfinement, le gouvernement s'y prépare en continuant d'améliorer l'application Tous Anti-Covid.
L'application de traçage de cas contacts qui a plus de succès que sa version précédente, près de 9 millions de téléchargements actuellement, avec quelques dernières nouveautés. Clément Le Saffre, alors qu'est-ce qui change pour nous ?
Eh bien d'abord, l'attestation de déplacement, jusqu'ici elle était accessible tout en bas de l'application. Depuis ce week-end, elle est mise en avant plus clairement en haut. Autre nouveauté, en plus des chiffres nationaux sur la propagation du virus et la tension hospitalière, des données locales à l'échelle du département vont être ajoutées cette semaine. Ces fonctionnalités doivent donner un nouveau coup de boost à l'application. Cédric O a fixé l'objectif de 15 millions d'utilisateurs pour la mi-décembre. Ce chiffre, il ne l'a pas choisi au hasard. Le secrétaire d'État au numérique s'appuie sur une modélisation de l'INSERM à laquelle appartient participer la chercheuse Chiara Poletto.
Dans ce contexte de deuxième vague, avec une adoption de 30%, on a projeté qu'on arrive à réduire la pression hospitalière. Si on veut réduire la possibilité d'une troisième vague, il faut vraiment un taux d'adoption plus élevé.
Alors en ce moment, Tous Anti-Covid est téléchargé par 150 000 personnes chaque jour. Il en faudrait pratiquement deux fois plus pour arriver à 15 millions dans un mois. Pour accélérer l'adoption de l'application, d'autres améliorations suivront donc dans les prochaines semaines. Le gouvernement planche toujours sur un système de QR code à scanner à l'entrée des restaurants pour remplacer les cahiers de rappel.
Le coronavirus et l'économie. Le nombre de demandeurs d'emploi s'est envolé à 9% au troisième trimestre.
Et pourtant, il y a des entreprises qui ne connaissent pas la crise. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour à tous.
Alors, quels sont ces secteurs qui recrutent ?
Eh bien, par exemple, le BTP cherche des bras. Le secteur est porté en ce moment par les travaux de rénovation énergétique. Le gouvernement, dans son plan de relance, vient de fortement renforcer MaPrimeRénov. Le secteur de la santé et le secteur des services à la personne ont besoin aussi de plus de personnel. On peut aussi citer les services informatiques avec le click and collect et la montée en puissance du numérique. Et même celles qui ne vont pas obligatoirement très bien cherchent en ce moment des salariés pour justement tenter de passer la crise au mieux. Selon David Borpère, directeur délégué de Hello Work qui regroupe des sites internet comme Jobijoba ou Région de Job.
Vous avez des secteurs qui ont de très très forts besoins de recrutement comme la comptabilité, la gestion, la finance
pour optimiser la trésorerie des entreprises.
Et le Work, hein, qui parle même d'une hausse de 22% des offres d'emploi par rapport à la même période de 2019. Une partie de la hausse s'explique par le fait que les entreprises, hein, passent de plus en plus par ces sites pour populariser leurs offres, surtout en période de confinement. Mais clairement, et on nous l'a confirmé, le marché de l'emploi cherche aujourd'hui des compétences très spécifiques.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Et puis à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous allons vous faire découvrir une initiative unique en France.
Un centre de formation réservé aux personnes souffrant de handicap, c'est ce que met en place en ce moment le Café Joyeux. 5 établissements en France qui n'emploient que des personnes atteintes de troubles autistiques ou de trisomie 21. Une vingtaine de jeunes sont en train d'être formés pour ensuite être diplômés. Pauline Jacquot.
Tu prends les champignons et tu les mets dans ton cul de poule propre, d'accord ?
En cuisine, c'est Anaïs qui encadre les jeunes.
Là, on va préparer les prochaines quiches, champignons, lardons, oignons et persil.
À la manœuvre, Aurélien, 19 ans, qui vient de suivre 3 mois de formation au Café Joyeux.
J'ai appris à faire de la cuisine, comment se comporter, comment se tenir. La gestion des marchandises, je ressens que je prends plus d'assurance.
Plus d'autonomie et de confiance en soi, remarque également Antoinette, la chef d'équipe.
On a une jeune trisomique qui était à l'origine qu'à l'accueil pour faire un bel accueil. Bonjour, bienvenue au Café Joyeux. Cette même équipière est aujourd'hui en cuisine à faire des mi-cuits. Et pour la plus grande joie de tous et de sa famille, elle est aussi en caisse.
Une formation qui fait ses preuves et que veut encore développer le fondateur du café, Yann Bucaille-Lanrezac.
L'objectif, c'est de structurer ça en une école avec pignon sur rue. C'est quelque part une passerelle, une porte d'entrée de l'inclusion professionnelle pour toutes ces personnes qui ont toujours été exclues du monde du travail. Travail à cause de leur handicap.
D'ici 2 ans, les Cafés Joyeux espèrent accueillir une centaine de jeunes au sein de leur formation.
Pauline Jacquot, et à ce propos, le Premier ministre Jean Castex annonce de nouvelles mesures pour mieux concilier handicap et parentalité, notamment un comité interministériel du handicap est organisé à Matignon ce matin.
Merci beaucoup Sophie Echen, il est 7h39.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Une troisième semaine de reconfinement et la stabilisation de l'épidémie. Situation dans les hôpitaux, politique d'isolement des malades. Le professeur Philippe Juvin, il est chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, mais aussi élu local, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. À 8h15, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Il faudra vivre avec le virus sur le temps long, on l'a compris, ça ne nous dit pas la méthode. Tout de suite, de quels exemples peut-on s'inspirer en Europe et dans le monde ? Quelle politique mettre en place pour qu'une troisième vague ne nous touche pas autant que les deux précédentes ? Sa parole est rare et donc précieuse. Sylvie Briand, directrice à l'Organisation mondiale de la santé, des risques épidémiques et pandémiques. Elle est l'invitée du tête-à-tête Europe Matin dans une minute. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h41. La deuxième vague a pris les Européens de court. Aujourd'hui, nous vivons tous, ou presque, avec des restrictions. En quelques mois, ce virus aura rebattu les cartes gestion sanitaire, solidarité internationale, activité économique et liberté des populations. La réponse mondiale face au coronavirus avec mon invité, Sylvie Briand, directrice du département pandémie et épidémie à l'Organisation mondiale de la santé.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Sylvie Briand.
Bonjour.
On va essayer de balayer avec vous les différentes stratégies de lutte contre le Covid dans le monde. On a parfois du mal à y voir clair. On a besoin de vous, presque comme d'un juge de paix finalement. Une grande diversité des approches. L'Asie ne fait pas comme l'Amérique latine. En Europe, on est tous très différents dans nos méthodes. Du côté de l'OMS d'abord, quel regard est-ce que vous portez sur cette diversité de méthodes ? D'une manière générale, c'est une bonne chose ou c'est décousu et ça complique votre travail ?
Ben, disons que ce qu'on sait, c'est que c'est une pandémie, donc ça touche des pays très différents aussi autour du globe et chaque pays a un peu un contexte sanitaire, culturel, économique très particulier. En plus, bon, en Asie, les méthodes qui ont été appliquées sont vraiment des méthodes assez drastiques, disons au début, parce que en fait, l'Asie avait l'habitude du, enfin, a déjà eu en fait une première habitude avec le SRAS en 2003, et donc ils en ont des très mauvais souvenirs. Et depuis 2003, ils avaient mis en place des tas de mesures en fait pour faire face à ce genre d'événement d'une maladie nouvelle qui émergerait.
Alors, vous citez l'exemple, très bon exemple du SRAS, effectivement, qui est quelque part dans le souvenir de ces pays asiatiques dont nous parlons beaucoup. On peut parler de Taïwan, du Japon, de la Chine, de la Corée. Est-ce que vous diriez que ces pays asiatiques ont la meilleure stratégie de lutte contre le Covid ?
Bah, disons que ce qu'on voit, c'est que c'est très difficile de stopper la transmission du virus quand on a beaucoup de virus. Et eux, mais par contre, si on le prend tout au début, avant que le virus soit largement répandu, c'est encore possible de couper chaque chaîne de transmission. Et c'est ce que ces pays ont essayé de faire dès le début.
Est-ce qu'on peut dire ce matin quelle est la meilleure stratégie de lutte contre le Covid ?
Alors, il y a plusieurs éléments dans la stratégie de lutte. Il y a la transmission, la mortalité et puis l'impact que la maladie peut avoir sur la société. Donc, il y a des stratégies différentes pour réduire la transmission, la mortalité et l'impact. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour la transmission, la meilleure stratégie, c'est de le prendre tout au début. Parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit bien en Europe que la plupart des pays ont maintenant le virus qui circule largement. Et on a beaucoup de mal, en fait, à stopper la transmission. Donc, on essaye juste de la réduire. Après, la mortalité dépend beaucoup, en fait, de la capacité du système de santé à gérer les patients. Et donc là, c'est vrai qu'il y a différentes stratégies, mais ce qu'on voit, ce qui marche, c'est quand on arrive à tester, isoler surtout et traiter les patients. Et là, on arrive à faire baisser la mortalité. Donc ça demande un système de santé qui soit robuste, mais aussi qui soit pas seulement focalisé sur l'hôpital, mais qui prenne en compte le reste des possibilités du système de santé, c'est-à-dire la médecine de ville, tout ce qui se fait au niveau des communautés.
Alors, j'ai une question à vous poser. Il y a toujours cette question de la sécurité collective qu'on va opposer aux libertés individuelles. Et les deux exemples que l'on prend ce matin ensemble sont très parlants. On parlait à la fois d'une partie de l'Asie et aujourd'hui d'une partie de l'Europe. Pour vous, est-ce que les Occidentaux, pardonnez-moi l'expression, font trop de chichi sur les libertés ?
Alors, je pense pas que ça soit nécessairement comme ça qu'il faille poser la question. Je crois qu'il faut voir en fait que il y a des stratégies de santé publique qui effectivement, pendant une durée limitée, vont demander aux gens de faire des choses pour pouvoir justement collectivement faire face à une menace. Alors, c'est pas c'est, évidemment, on peut poser ça du point de vue individuel. Est-ce que ça entame ma liberté ? Mais en fait, c'est pour protéger la population. Quand on met en place ces mesures, c'est aussi pour empêcher que les gens tombent malades et aussi meurent. Donc c'est une façon de leur sauver la vie. Donc je pense qu'il faudrait repositionner le débat peut-être plus en faveur de la santé parfois.
Une autre question dans cette comparaison, mais là on pourrait rajouter l'Amérique latine, si j'ose dire, les pays occidentaux, mais aussi les Américains, les Latins. Est-ce que nous sommes réfractaires aux gestes barrières ?
Alors, je pense que c'est beaucoup plus loin de notre culture. Donc, c'est vrai que adopter les gestes barrières, ça nous demande plus d'efforts, plus de contraintes. Parce que c'est vrai que, par exemple, en France, on a tendance, quand on se dit bonjour, à se serrer la main, à se faire la bise. Donc, c'est nos modes de vivre ensemble. Et c'est vrai que là, on nous demande de faire une distance physique. Donc, cette distance physique, ça peut être aussi pris comme une distance sociale et comme un éloignement, en fait, des gens. Bon, il faut qu'on apprenne à dépasser ça aussi, à mettre en place certains gestes qui sont finalement pas si compliqués. En Asie, ils le font tout le temps. Bon, d'abord aussi parce qu'il y avait beaucoup de pollution dans certaines grandes villes, donc les gens mettaient des masques de toute façon en temps de pollution, donc ils ont l'habitude aussi de mettre des masques.
Je quitte cette partie du globe, hein, l'Asie. Je voudrais vous parler du continent américain. On peut penser à Donald Trump, on peut penser à Jair Bolsonaro. Comment est-ce que vous faites, vous, l'OMS, avec des pays qui sont réfractaires, finalement? Pour le coup, on peut le dire. Est-ce que vous avez des contacts avec eux ? Est-ce que vous continuez à travailler avec eux ? Et ce discours politique qui est le leur, finalement, il a une grande influence sur les populations.
Oui, on continue tout à fait à travailler avec eux parce que d'abord l'OMS, comme vous savez, c'est une agence des Nations Unies, donc que ce soit les États-Unis ou le Brésil, ce sont nos États membres. Donc on travaille avec tous nos États membres et en fait, on vient d'avoir une assemblée mondiale là récemment. Bon, c'était virtuel, c'était la première fois pour l'OMS, mais c'est l'endroit où les États membres justement discutent. Donc il y a différentes perspectives sur cette crise, il y a différentes approches en fonction des situations des pays et les États membres le discutent et essayent de voir comment on peut ensemble aussi au niveau planétaire sortir de cette crise parce que si certains pays souffrent plus que d'autres, ça va, comme l'économie est globalisée, de toute façon ça aura un impact sur tout le monde.
Alors simplement pour terminer, j'avais une question très courte mais on va essayer de l'étayer un tout petit peu. Est-ce qu'on pourra fêter Noël ? Je voulais vous demander quelle région vous inquiète particulièrement ? Est-ce que l'Europe vous inquiète particulièrement du côté de l'Organisation mondiale de la santé ?
Bah, disons qu'en ce moment, l'Europe, pour des raisons d'une part climatique, puisqu'on rentre dans la saison hivernale et qu'il y a toujours beaucoup plus de virus respiratoires circulant durant cette saison, Donc l'Europe effectivement fait face en ce moment à une vague de transmission. Ce qu'il y a, c'est que chaque pays, les pays sont vont être tous atteints, mais pas forcément en même temps. Donc on va avoir des vagues successives dans différents pays. Donc là maintenant, ce qui est important, c'est d'essayer de voir que certains pays qui passent le pic et qui vont avoir une décroissance ne retrouvent pas en fait une transmission qui explose, par exemple autour de Noël ou de janvier. Donc il va falloir essayer de maintenir la transmission à un niveau assez bas pour que tous les systèmes de santé puissent faire face.
Merci Sylvie Briand.
Merci, au revoir.
Directrice du département pandémie et épidémie à l'Organisation mondiale de la santé, merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1. Il est 7h49.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Les catholiques qui donnent de la voix pour que les messes se tiennent malgré le confinement. Les voix du Seigneur sont impénétrables et la voix des catholiques se fait entendre. L'édito politique dans une minute.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance maladie et de Santé publique France.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France accompagne au quotidien ses clients et finance les projets du territoire pour une économie durable. La Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont des femmes et des hommes engagés qui agissent chaque jour pour être utiles à tous. Caisse d'épargne Île-de-France, le pari du développement.
Pour l'éclairage de votre intérieur sur manomano.fr, vous trouverez des milliers d'objets pour mettre de la lumière un peu partout chez vous. Il y en a même avec des formes tellement originales que parfois, on voit à peine la lumière. Mais c'est pas grave. C'est pas pour éclairer, c'est pour faire joli. Manomano.
C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Chérie, tu sais qu'en ce moment, on peut acheter une voiture sur autosphère.fr. Il y a près de 20 000 véhicules neufs ou d'occasion.
Ah.
Ouais, ils sont disponibles tout de suite et ils te la livrent même à domicile.
Ah.
Et en plus, ils ont des financements exceptionnels.
Ah.
Autosphère, libère l'automobile.
Offre réservée aux particuliers pour tout financement d'un véhicule d'occasion en stock disponible et commandé jusqu'au 30 novembre 2020 chez les distributeurs participants. Si accord, priori sirène 489 581 769. Conditions de l'offre sur autosphère.fr.
Ah, boulanger. Chez Boulanger, nous sommes plus que jamais à vos côtés pour simplifier vos achats essentiels et votre quotidien. Commandez sur boulanger.com ou sur l'application Boulanger et récupérez votre commande une heure plus tard dans l'un de nos drives sans contact. Boulanger, si bien ensemble. Sous réserve de la disponibilité du ou des produits commandés et de la validation du moyen de paiement. Voir conditions détaillées du drive sur boulanger.com et sur l'application Boulanger.
Europe Matin,
le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Gérald Darmanin réunit ce matin au ministère de l'Intérieur les représentants des différentes religions. Hier, dimanche, plusieurs manifestations de catholiques ont eu lieu en France pour réclamer l'autorisation d'aller à la messe.
Oui, des manifestants qui ne comprennent pas qu'assister à une cérémonie religieuse soit considéré comme plus dangereux que prendre le métro ou déambuler dans un centre commercial. Alors certes, les églises restent ouvertes, mais les seules cérémonies autorisées sont les obsèques avec 30 personnes maximum et les mariages avec 5 participants, plus le célébrant, autant dire personne, sauf les mariés et une poignée de témoins.
Oui, les mariages à 5, c'est compliqué. Voilà. Les catholiques ont déjà déposé un recours au Conseil d'État pour obtenir le rétablissement des messes, et ils ont perdu.
Oui, mais le Conseil d'État a, dans le même arrêt, demandé au gouvernement d'organiser une nouvelle concertation.
Qui aura lieu ce matin, et Jean Castex sera là.
Voilà, il s'est invité, le Premier ministre, à cette réunion, signe qu'il avait compris que le différend avec les cathos devenait un problème. Il faut dire que jusque-là, le ministre de l'Intérieur s'est montré plutôt raide et même menaçant. Les manifestants devant les églises, je ne souhaite pas envoyer les policiers et les gendarmes, a-t-il dit, mais s'il s'agit d'un acte répété, je le ferai dès ce week-end. Bon, il y a mieux comme esprit de concertation. Pour obtenir du Conseil d'État le maintien de l'interdiction des messes, le ministère de l'Intérieur avait pioché sur YouTube deux vidéos montrant des fidèles peu respectueux des gestes barrières. Un peu comme si on interdisait l'accès au supermarché parce que des vidéos montrent ici ou là des files d'attente trop compacte. Un peu dérisoire tout de même.
Les chiffres de l'épidémie montrent un mieux. Est-ce que l'interdiction des messes pourrait être allégée dès aujourd'hui ?
Alors peut-être, oui. Les cathos insistent d'ailleurs sur leur bonne volonté, s'il fallait durcir le protocole sanitaire ou si un calendrier de retour progressif aux célébrations était proposé. Mais un évêque influent me disait hier qu'il trouvait que Gérald Darmanin avait mal ajusté ses déclarations et qu'il avait perdu inutilement son calme vis-à-vis de manifestants extrêmement paisibles. Ce sont ces mots. Et comme tout se passe à un moment où on débat beaucoup de la laïcité et du rapport entre la religion et l'État, ça crée une ambiance un peu bizarre.
C'est-à-dire, il y aurait un objectif implicite de la part du gouvernement ?
Écoutez, certains s'interrogent et s'inquiètent de la prochaine loi sur le séparatisme. Alors bien sûr, il faut absolument contrôler les prêches politiques ou certaines associations islamistes, mais est-ce que cette loi ne va pas par extension, faire subir aux autres religions une contrainte supplémentaire, un nouveau contrôle des cultes. Rien ne dit que ce soit aujourd'hui l'état d'esprit de Gérald Darmanin, mais peut-être devrait-il justement s'attacher à ne pas donner à tous les croyants et à toutes les religions le sentiment contraire.
Merci Nicolas Bétou, et j'attire votre attention, mon cher Nicolas, et tous les auditeurs d'Europe 1, vers le journal de 8h. Ce matin, dispositif spécial sur Europe 1, tour d'Europe, des stratégies face au Covid. On est à la recherche, il faut bien le comprendre, de solutions. Et nous serons notamment en Italie, où on observe toujours l'Italie particulièrement. Ils ont 2 semaines d'avance sur nos courbes, si vous voulez. En Italie, on va à la messe. Il y a d'autres restrictions. En Italie, on va à la messe, vous l'entendrez à 8h. Nicolas Bétou, merci beaucoup.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
7h55, comme tous les jours, Nicolas Canteloup, coach à sa manière, l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, et maire Les Républicains de la Garenne Colombe. Et c'est, tiens, un revenant, Jean-Marc Ayrault.
Oui, bonjour. Philippe Juvin, vous l'avez dit, médecin anesthésiste à la Garenne Colombe. Je connais le sujet puisque j'étais moi-même anesthésiste pendant les 685 jours qui m'ont occupé à Matignon. J'ai anesthésié la France. Vous voyez, avec le recul, ce sont des très belles années.
Oui, bonjour Michel Simès.
Bonjour Michel Simès.
Bonjour Marina. Attention, on s'endort à l'antenne. Ceci, c'est peut-être pas plus mal que les déclarations, que la suite à venir avec votre invité Philippe Juvin, puisque j'ai lu ses déclarations. Il nous dit « on n'est pas sorti de l'auberge ». C'est vrai, cher Mathieu, vous en conviendrez, ça fout la patate pour un lundi matin. Le pic de l'épidémie est pour dans quelques jours, mais le pic de morale des Français, c'est pas avant 2024, d'après Philippe Juvin.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille donc à sa manière l'invité de la matinale. Ce matin, le professeur Philippe Juvin à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Et vous, Nicolas, on vous retrouve à 8h45, bien sûr, pour la revue de presse, 7h56. 7h59, le temps avec vous, Laurent Cabrol.
Eh bien, ce matin, c'est pas très folichon. Il y a encore pas mal de pluie, de petites pluies. Alors, c'est 3 fois rien, c'est des petites gouttes. Mais enfin, ça gâche l'atmosphère. Et puis surtout, le ciel est gris, le ciel est souvent couvert. Bref, c'est pas terrible. Mais ça va s'arranger. Et l'amélioration va se dessiner au fil des heures. Très lentement, mais elle va se dessiner, puisqu'elle sera beaucoup plus flagrante dans la journée de demain. Je voudrais faire une petite parenthèse pour dire que les alertes orange en matière de submersion ont été levées, mais quand même, les marées sont très importantes, autour de 109, donc ce sont de trop grosses marées, donc soyez vigilants tout de même. Donc aujourd'hui, amélioration progressive, demain mardi, ça sera pas mal, mais beaucoup de brouillard, bon, on est quand même en automne, on ne peut pas tout avoir. Donc des brouillards, et ensuite du soleil demain, ça sera une belle journée quand même, et puis après-demain également, sauf sur la Bretagne où les petites perturbations arriveront, mais dans l'ensemble, nous aurons le mardi et mercredi des journées assez agréables et assez sympathiques.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Je suis contente d'être en Slovaquie. Ici, on peut se balader plus librement dans des lieux où les Français, eux, ne peuvent pas aller.
Et oui, nous ne sommes pas dans un lointain pays d'Asie ou sous un régime autoritaire, mais au milieu de l'Europe, en Slovaquie, qui a réussi à tester toute sa population pour isoler les malades et ne pas confiner les autres. Ce matin, nous vous emmenons dans 3 pays d'Europe dont les stratégies face à la deuxième vague du virus sont très différentes de la nôtre et très intéressantes aussi. La Suède, dont les écoles n'ont jamais fermé, même au printemps. L'Italie, Italie qui autorise les messes en public, l'ouverture des librairies et un confinement différent selon les régions. Les trois envoyés spéciaux d'Europe 1 en direct dans un instant. Dans ce journal, l'hypothèse d'un vote par correspondance en France, est-ce faisable comme aux États-Unis? Et puis le témoignage d'une maman qui a vécu la mort de sa fille, Alexia Daval, et les mensonges invraisemblables de son gendre il y a 3 ans.
Au cœur de notre tour d'Europe, des stratégies, des solutions pour vivre avec le virus sur le long terme pour combattre l'épidémie, le professeur Philippe Juvin, chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Savez-vous quelle est la devise officielle de l'Union européenne ? Unie dans la diversité. On peut dire que cette diversité est particulièrement visible dans la lutte contre le Covid, entre la façon de compter les malades, les stratégies de tests, les commandes de masques ou encore la gestion des frontières. 9 mois après l'apparition du virus en Europe, la coordination entre pays n'est pas criante.
Face aux vagues successives de l'épidémie, quelque part nous sommes tous dans le même bateau, mais chacun écope dans son coin. Des stratégies très précises et même, vous allez le voir, assez inspirante, que les reporters d'Europe 1 sont allés voir sur le terrain.
Oui, Jean-Jacques Herry, bonjour, vous êtes en Slovaquie, à Bratislava, où on a adopté une stratégie unique en Europe, testée d'un coup toute la population.
Oui, tout le monde, sauf les jeunes enfants et les personnes âgées. Hein. Et cette stratégie, elle a un effet très visible pour moi qui arrive de France et qui me balade dans les rues de Bratislava. Il y a une vie à l'extérieur en Slovaquie et c'est surprenant. Les magasins sont ouverts, les cafés ont mis des tables en terrasse, loin d'être remplis certes, mais on peut prendre un café. C'est là que j'ai rencontré Edvard.
Nous vivons une vie normale. Le Covid est là, mais on vit normalement. On peut aller dans un café ou un restaurant, mais même si on doit tout consommer à l'extérieur, ça, ils nous l'ont autorisé. On est en plein air, dans le froid, avec une distanciation entre les tables. Mais même dans le froid, on apprécie.
Jean-Jacques, comment est-ce qu'on fait pour tester autant de monde ?
Eh bien, il faut des moyens colossaux. À peu près 50 000 personnes ont été mobilisées, des médecins, des bénévoles, l'armée slovaque. Et il y a même des renforts qui sont venus de Hongrie et d'Autriche pour des tests toute la journée de 7h à 22h. Au total, 3 600 000 Slovaques, environ les 2/3 de la population, ont été testés les 2 premiers week-ends de novembre. L'objectif de ces tests, c'était vraiment de faire un tri, de fixer des règles. Si vous êtes positif, c'est quarantaine obligatoire, 10 jours à la maison avec interdiction de sortie. Si vous êtes négatif, en revanche, vous recevez un papier bleu, une sorte de sésame à présenter en cas de contrôle, qui vous autorise à être dehors sans restriction de mouvement, puisque l'on considère que vous ne pouvez pas transmettre le virus. La population a répondu présent parce qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Le certificat bleu était nécessaire pour aller travailler ou pour emmener ses enfants à l'école. Et pour ceux qui seraient sortis sans ce fameux papier bleu, le risque était très gros, 1650 euros d'amende.
Oui, alors Jean-Jacques, je remarque que vous dites le risque était très gros, vous parlez au passé.
Oui, parce qu'il y a eu une bascule ce week-end. Les testés positifs d'il y a 15 jours ont terminé leur quarantaine. Plus besoin donc de les différencier des autres, plus besoin de ce fameux papier bleu. Tout le monde a le droit de sortir dehors sans restriction maintenant, d'aller au centre commercial par exemple, où Barbara faisait ses courses avant-hier.
Je suis contente d'être en Slovaquie, où tout ça c'est possible. En fin de compte, les mesures qui ont été prises sont une sorte d'exemple pour les autres pays. Ici, on peut se balader plus librement dans des lieux où les Français, eux, ne peuvent pas aller. J'espère qu'ils pourront le faire rapidement.
Et Jean-Jacques, ce qu'on entend, ça paraît presque trop beau pour être vrai.
Tout n'est pas réglé, c'est vrai. Il faudra encore attendre une semaine avant de voir si ces tests ont vraiment cassé la courbe de transmission. Il reste des inconnus qui tiennent d'abord à la nature des tests utilisés. Ce sont des tests antigéniques, moins fiables que des tests PCR. Mais il n'empêche, la stratégie séduit. L'Autriche, par exemple, a annoncé hier soir qu'elle aussi allait mener une campagne de dépistage à grande échelle. Mais attention, cette stratégie est un outil qui, ici en Slovaquie, ne fait pas oublier les gestes barrières et le port du masque qui reste, comme en France, plus que jamais obligatoire.
Merci Jean-Jacques Herry, en direct de Bratislava, en Slovaquie.
Et bonjour Jonas Chabas.
Bonjour.
On continue notre tour d'Europe avec vous. Vous êtes en Suède. Alors qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'on vient d'entendre ?
Eh bien Jean-Jacques parlait justement des masques partout. Et en fait, ici en Suède, c'est radicalement différent. Les masques ne sont nulle part. C'est frappant dès la sortie de l'avion. La première chose que j'ai vue, c'est la police aux frontières sans masque. Dans les rues, les boutiques, les restaurants, personne n'en a. Je suis allée dans un hôpital et même là, le chef infectiologue n'en portait pas. Fredrik Sund considère que le masque donne une fausse sécurité.
Quand vous pensez bien porter un masque, vous ne respectez pas les autres recommandations. Vous vous sentez invincible. Le bon moment pour porter un masque, c'est quand vous êtes dans un endroit bondé. Mais vous devriez ne pas y être du tout, en fait. C'est ça la méthode suédoise. Si vous respectez les règles de distanciation, vous n'avez pas à porter un masque.
Ici, seuls les médecins au contact de patients Covid et les travailleurs d'entreprises internationales portent un masque.
Johanna Chabas, autre énorme différence, les écoles qui sont toujours restées ouvertes sans aucun protocole. On écoute votre reportage dans une école primaire de Stockholm.
Les enfants courent partout, se mélangent, aucune distanciation entre les élèves et les professeurs. Une scène impossible en France, mais tout à fait normale pour Linia et son mari Karl, parents de deux enfants.
Je me sens triste pour le reste du monde, pour tous les professeurs et tous les enfants.
Les enfants sont peu touchés par le Covid et ils n'en meurent pas. Ils tombent malades tout le temps. S'ils l'attrapent, ils s'en remettront.
L'école n'a jamais fermé depuis le début de la crise. C'est vital pour la santé mentale des enfants, selon Frida, une jeune maman.
Je pense que mes enfants ont vraiment besoin d'être stimulés par la présence d'autres enfants. L'école est très importante pour eux, c'est un échappatoire.
L'école permet notamment, selon cette maman, de protéger les enfants des violences familiales.
Alors avec ce reportage, Johanna, on a l'impression que tout est normal, finalement, en Suède. Il faut tout de même souligner l'importance de la responsabilité individuelle des Suédois.
Oui, le gouvernement n'a pas le pouvoir législatif pour mettre en place de véritables interdictions car la Constitution garantit la liberté de circulation. Donc seule restriction pour l'instant, les rassemblements sont limités à 50 personnes. Pour le reste, le gouvernement ne fait que des recommandations, télétravailler, sortir le moins possible. Et c'est très suivi, des commerçants ici ont perdu plus de la moitié de leur clientèle. Le respect des autorités est ancré dans la culture. Les Suédois me disent tous à quel point ils font confiance en leurs dirigeants et suivent leurs décisions. Alors, le nombre de cas augmente, le taux de mortalité aussi, 598 morts par million d'habitants, mais pour l'instant, il reste inférieur à peine à celui de la France.
Merci Johanna Chabas à Stockholm pour Europe 1. On va se rapprocher un petit peu de nous avec l'Italie à présent. Et contrairement à la France, où Gérald Darmanin se dit prêt à verbaliser devant les églises, les Napolitains, eux, bien que confinés, ont pu assister à la messe du Père Nicolas.
Nous retrouver dans la prière est un immense réconfort en cette période. Mais attention, il y a des règles de sécurité à respecter. Dans l'Église, il faut garder une distance d'un ou deux mètres entre chacun des fidèles. Enfin, la communion est reçue directement dans la main. La donner directement à la bouche, ce n'est pas autorisé.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
À Rome, après avoir passé deux jours à Naples, cette différence, Jean-Sébastien, avec la France, ça s'arrête à l'autorisation des messes ?
Pas du tout. Autre exemple, les librairies. Ici, elles peuvent rester ouvertes, considérées comme nécessaires pour s'aérer l'esprit. Et puis, les autorités veulent leur éviter la faillite. Tullio, libraire à Naples, prend cette décision comme une mesure de survie.
Les librairies sont en crise depuis longtemps. C'est vraiment une bouffée d'air de pouvoir rester ouvert. Parce qu'en ce moment, des gens se mettent à lire. Certains deviennent des acharnés de lecture. Je pense que la France se trompe.
À côté de ça, il est aussi possible d'aller chez le coiffeur, même dans les zones qui sont désormais confinées.
Oui, parce que ça aussi, c'est une différence avec la France, Jean-Sébastien, l'Italie qui confine selon les régions.
C'est ça, si on compare avec nous, des régions sont moins touchées que d'autres, mais tout le monde est confiné. En Italie, Rome est en jaune sur la carte. Circulation du virus faible. Il y a un couvre-feu, mais peu de restrictions en journée. En revanche, Naples s'affiche en rouge. Hôpitaux saturés, un soignant m'a dit qu'en une heure, 5 ambulances ont évacué des patients vers d'autres structures. L'approvisionnement en oxygène, c'est une citerne par jour contre 3 livraisons par semaine en temps normal. Résultat, Naples vit quasiment le même confinement que le nôtre.
Et comment les Italiens vivent cette situation ?
Oui, plutôt bien. Là où nous, Français, opposons petit commerce et grande distribution, eh bien les Italiens acceptent les règles. Alfredo tient une boutique de vêtements. Il va fermer pour 2 semaines au moins. Pourtant, ça ne le gêne pas si, 100 km plus loin, le même magasin peut rester ouvert.
Si à côté, ils ont eu plus de chance ou s'ils ont été plus efficaces pour contenir l'épidémie, ce n'est pas à eux de payer les erreurs des autres. Cette pandémie nous pousse à être égoïstes et au lieu d'être égoïstes, nous devons tous prendre nos responsabilités.
La première vague très violente a marqué les Italiens. Au fer rouge, le coronavirus les a changés en profondeur, au point presque de devenir des Suédois dans l'âme et d'en perdre leur comportement latin.
Jean-Sébastien Soldaini à Rome pour Europe 1, ce tour d'Europe avec l'Italie, la Suède, la Slovaquie, mais aussi la Suisse et la Finlande dont nous vous avons parlé dans le journal de 7h. C'est un dossier complet à retrouver pays par pays sur Europe 1.fr.
Revenons donc à la France. Tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique. C'est ce que déclare le ministre de la Santé ce matin, Olivier Véran, dans Le Dauphiné Libéré, l'Alsace ou Le Républicain Lorrain, s'appuyant sur la thèse de plusieurs indicateurs, sur la baisse de plusieurs indicateurs. Il y a malgré tout cette question. Pourra-t-on voter sereinement pour les élections régionales, départementales et même la présidentielle, finalement, dans un an et demi, si jamais le virus n'est pas éradiqué?
Et l'idée d'un vote par correspondance a refait surface. Jean-Rémy Baudeau, le sujet divise jusque dans la majorité.
Oui, et c'est une idée défendue par François Bayrou et le MoDem depuis plusieurs années. Une idée accueillie avec intérêt par une partie de La République En Marche, y compris par Christophe Castaner, le patron du groupe LREM. Mais pour faire avancer ce débat, l'ancien ministre de l'Intérieur va devoir contourner le nouveau. Gérald Darmanin se montre farouchement opposé au vote par correspondance. Une fausse bonne idée, a écrit hier le patron de Beauvau. Il met en avant le coût, la logistique compliquée et le risque de fraude, de manipulation, y compris communautaire. Le secret de l'isoloir, c'est une conquête, clame l'entourage du ministre. Une position qui fait grincer des dents. Il ne veut pas qu'il y ait de débat, regrette un macroniste historique. De son côté, l'Élysée temporise. Le président veut avant tout du consensus, explique l'un de ses proches. Dans le contexte actuel, pas question pour Emmanuel Macron de rentrer dans un débat sur lequel la majorité risque de se déchirer.
Jean-Rémy Baudeau.
Ouverture ce matin d'un des procès les plus attendus cette année. L'affaire Jonathan Daval, accusé du meurtre de son épouse Alexia, il y a 3 ans, à Grès, en Haute-Saône.
Oui, sa belle famille l'avait soutenu pendant des semaines sans savoir la vérité. Ce matin, Europe 1 vous propose d'entendre le témoignage d'Isabelle Fouliot, la maman d'Alexia, qui a vécu cette situation terrible.
Bien sûr que je vais le regarder. Je l'ai quand même connu pendant plus de 10 ans, hein, ce meurtrier. Donc oui, il ne me fait pas peur. Ah non. Qu'est-ce qu'il voit quand il se regarde dans une glace, ce garçon? Moi, je n'y vois qu'un lâche. Est-ce que je vais croire un traître mot de ce qu'il va me dire? Il a trop changé de version. Donc non, je crois que j'attends rien de lui là-dessus. Moi, ma grande question, c'est le pourquoi. Pourquoi en arriver à tant d'horreur? Elle a quand même reçu 15 coups de poing. Il ne reprend jamais ses esprits. La volonté de tuer, elle est là. 15 coups de poing. Un étranglement de 4 minutes. Il voulait vraiment en finir avec Alexia. C'est de la préméditation pour moi. Il voulait vraiment qu'elle meure. Moi, j'attends juste qu'on mette le mot « coupable » sur sa tête.
Ce témoignage extrêmement fort hein, d'Isabelle Fouliot, la maman d'Alexia Daval, au micro d'Arthur Mbaché. Il parle de condoléances pudiques. Emmanuel Macron déplore le faible soutien international apporté à la France après les derniers attentats. Dans un entretien à la revue Le Grand Continent, le président français rappelle qu'il y a 5 ans, après la tuerie à Charlie Hebdo, le monde entier défilait à Paris et défendait ses droits à la liberté d'expression. Et puis dans l'actualité, un décompte. La nuit dernière, 4 astronautes en route vers la Station Spatiale Internationale.
1, 0, ignition.
Ignition, voilà, acheminé par l'entreprise SpaceX via sa fusée Falcon 9. Alors, le premier étage de l'engin a été récupéré et sera réutilisé au printemps prochain pour emmener le Français Thomas Pesquet et 3 coéquipiers dans l'espace.
Merci François Geffry, on a pris de la hauteur à la fin de ce journal de 8h après ce tour d'Europe des stratégies contre le Covid. Merci François, 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous reprenons le contrôle de l'épidémie, indique ce matin le ministre de la Santé. Oui, mais quelle réalité dans les services des hôpitaux? Notre invité, Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur Philippe Juvin, chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes.
Bienvenue et bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Nous reprenons le contrôle sur l'épidémie indiqué ce matin dans le Dauphiné Libéré, le ministre de la Santé. Est-ce que c'est ce que vous observez aussi sur le terrain?
Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Sur le terrain, les hôpitaux sont toujours pleins. C'est vrai qu'il y a moins de cas qui se présentent actuellement aux urgences, il y a moins d'entrées, ça c'est une chose. Bref, il semble qu'il y ait une inflexion de la courbe du nombre de nouveaux cas, mais les hôpitaux sont toujours pleins, les réanimations sont toujours pleines, donc on n'y est pas encore.
Cette phrase, on nous l'a dit il y a déjà quelques mois. Alors aujourd'hui, comment on évite un troisième reconfinement, un autre reconfinement?
Vous avez raison, en fait, aujourd'hui, la situation, quelle est-elle et quelles sont les questions qui se posent? Il y en a deux. La première, c'est d'avoir une stratégie pour éviter un troisième reconfinement, une fois qu'on aura déconfiné, et avoir une stratégie pour la vaccination, une vaccination de masse. C'est ça le sujet.
Sur la première partie, quand vous dites le déconfinement, professeur Juvin, sur quels critères scientifiques validés la décision de fermer les commerces, les librairies, les théâtres, les restaurants a été prise? Est-ce que vous le savez?
Ben non, je ne le sais pas, et c'est d'ailleurs un des sujets principaux. En fait, de tout temps, depuis que les épidémies existent, les hommes ont fait deux choses face à une épidémie. D'abord, ils ont isolé les positifs, ce que nous n'avons pas bien fait. Et c'est une des conditions du déconfinement, d'ailleurs, aider les gens à s'isoler quand ils sont positifs. Et ils ont fait une deuxième chose, les gens, face à une épidémie, ils ont identifié les lieux où l'épidémie naissait. Et nous, en fait, ne sachant pas où les épidémies, où l'infection se faisait, eh bien, on a fermé d'une manière homogène les commerces, par exemple. Non pas que la situation soit pas grave, elle est grave, et le gouvernement a raison de prendre des mesures difficiles. Mais c'est vrai que l'acceptabilité de la fermeture des commerces serait plus grande s'il y avait des données scientifiques indubitables qui permettraient de justifier la fermeture de tel ou tel commerce.
Mais comment l'expliquer, Philippe Juvin? Comment expliquer aujourd'hui qu'il n'y ait pas cette base de données exhaustive, incontestable, scientifique qui permettrait d'affirmer ou d'infirmer que ces lieux, que ces théâtres, restaurants, que ces commerces sont ou pas des lieux de contamination?
Eh bien, je ne sais pas. Et c'est vrai que depuis maintenant 8 ou 9 mois que nous sommes dans cette épidémie, c'est absolument inconcevable que nous n'ayons pas les moyens pour massivement tester ou avoir des éléments qui nous permettent de dire oui, on s'infecte dans tel endroit ou dans tel autre. Aux États-Unis, on voit bien la différence d'approche. Ils utilisent comme nous des tests, les fameux tests PCR, mais pas seulement parce qu'il y a une logistique qui est compliquée. On a vu la complication de se faire tester. Ils utilisent toutes les données à leur disposition. Par exemple, il y a un travail qui a été publié la semaine dernière qui a testé 100 millions d'habitants dans plusieurs grandes villes, à travers les données de leur téléphone portable. Non pas Stop Covid, mais les données de déplacement. Et statistiquement, ils ont mélangé toutes ces données dans de grands entrepôts de données. Ils ont analysé que si j'allais dans tel commerce, j'avais plus de chances d'être infecté. Si j'allais dans tel autre, moins de chances. Et ce type de données qui va au-delà du test biologique sont des données que malheureusement nous n'utilisons pas en France, et il faudrait que nous les utilisions enfin pour savoir si tel ou tel commerce, on peut les
réouvrir. Malgré, Philippe Juvin, les barrières de protection des données, vous dites qu'il faut dépasser tout cela pour avoir ces lieux de contamination, qu'on les connaisse et qu'on les accepte, finalement.
C'est le président de la République qui a dit que nous étions dans une guerre. Donc, quand on est dans une guerre, on se donne les moyens de la faire. Et il est très clair que l'absence de données fiables qui justifie la fermeture de tel ou tel commerce nuit à l'acceptabilité de la demande. Quand vous êtes certain que dans tel endroit on s'infecte, en fait plus personne ne râle. Et tout le monde accepte que l'endroit où on s'infecte soit fermé.
C'est-à-dire, en vous écoutant aujourd'hui, vous ne savez pas, on ne sait pas si c'est vraiment dans les commerces, dans les théâtres, dans les restaurants qu'on s'infecte. C'est bien cela.
On commence à savoir par les données américaines et par des données internationales, mais malheureusement pas par des données françaises, et c'est quand même ça qui est gênant, que effectivement restaurants, bars, ce sont des endroits où on s'infecte tout simplement, et c'est assez logique parce qu'on baisse le masque. Mais par exemple, dans l'étude américaine, il a aussi été montré que les résultats dans une ville n'étaient pas les résultats dans une autre ville. Autrement dit, que les résultats pouvaient varier en fonction de l'organisation spatiale des choses, de la population cible, est-elle pauvre, est-elle riche? Et c'est pour ça que les auteurs de l'article disent « Toutes ces données sont valables dans la population que nous avons testée, mais il faudrait pays par pays, ville par ville, faire ses études pour savoir ce qu'on fait. »
Poursuivons le raisonnement, Philippe Juvin. Est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est tabou de demander combien il y aura de victimes par asphyxie économique en comparaison du réel nombre de morts du Covid? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que cette question vous choque?
Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais plus que ça, vous savez, il y a déjà d'ailleurs des victimes non-Covid du Covid, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été soignés pour des pathologies qui ne sont pas le Covid, à cause de la désorganisation du système. Ainsi, on a montré, là aussi un travail publié dans une grande revue américaine, que 4 semaines de confinement conduisaient à une surmortalité dans toutes les catégories de cancers de tout type. Pourquoi? Parce que retard à la chimiothérapie, retard à la radiothérapie, retard au diagnostic. Donc, dans une épidémie comme le Covid, il y a des décès liés au Covid qu'on a identifié assez bien, et il y a des décès liés à la fois à la désorganisation du système de santé, mais vous avez raison de dire aussi que l'économie, quand elle sombre, fait aussi des victimes.
Mais est-ce que c'est un débat qu'on doit poser? Est-ce que vous l'entendez, cette question? Vous dites que dans un pays comme le nôtre, on n'a pas le droit de se la poser. On va faire des centaines de milliers de victimes, notamment économiques, chez les commerçants, pour un certain pourcentage de morts du Covid?
Eh bien, il faut, en fait, et c'est tout le sujet de cette crise, il faut que tout soit sur la table. il faut que sur la table, il y ait toutes les données. Et qu'on n'ait pas l'impression que les décisions sont prises en chambre privée, annoncées un soir.
Vous voulez dire en conseil de défense
En conseil de défense. Le conseil de défense, il est très utile, et le président a raison de l'utiliser, quand il y a urgence de prise de décision. Mais quand on est dans une épidémie qui a 8 mois, est-il urgent de prendre à la minute une décision de fermeture de tel ou tel commerce ? Je pense qu'il aurait fallu depuis plusieurs mois mettre autour de la table tous les intéressés, les acteurs économiques, les représentants des chambres des députés et des députés du Sénat, tous les gens qui participent à la prise de décision, qui peuvent l'éclairer, et c'est à la condition du partage de l'information que les décisions peuvent être acceptées.
Il faut trancher si vous étiez aux responsabilités, Philippe Juvin. Comment auriez-vous fait ?
Mais vous savez, regardez encore une fois ce que fait la chancelière en Allemagne. Elle réunit régulièrement chaque semaine tous les acteurs économiques, tous les acteurs sociaux. Elle explique les problèmes. Ils échangent sur la manière d'y arriver, et ils arrivent à un consensus sur la gravité, parce que la situation est grave, il ne faut pas la sous-estimer, un consensus quant à la décision à prendre, et évidemment, cette décision est mieux acceptée quand elle est partagée. Vous voyez, l'idée que les choses sont décidées d'une manière un peu confidentielle nuit à la confiance que les Français peuvent avoir en la décision politique.
Vous parlez
politique.
De l'Allemagne, justement. Un journal allemand tacle la France dans sa gestion du Covid-19, parlant de notre pays comme de l'absurdistan à cause de règles qui confinent à l'absurde, et j'ajoute que le maire LR de Cannes, David Lisnard, rappelle cela la folie bureaucratique. Est-ce que vous l'éprouvez dans votre quotidien, professeur ?
Oui, très clairement. On voit bien que dans cette crise, il y a eu une crise sanitaire, il y a eu une crise de décision avec des chefs, des sous-chefs, des ordres, des contre-ordres. Tout ne peut pas se décider à Paris. La proposition du président du Sénat est intéressante, de voir qu'il faudrait associer, par exemple, les maires qui connaissent parfaitement le tissu économique et social de leur commune aux décisions qui sont prises. Et oui, et moi je prétends...
Mais là, c'est le professeur qui me parle ou c'est l'opposant politique ?
Non. Moi, vous savez, dans cette affaire, j'ai toujours été, avec le président de la République, un citoyen respectueux du sérieux de la situation. Et quand le président a pris des décisions difficiles de confinement, je l'ai toujours soutenu. Toujours. Sauf que cela, ça me donne la liberté de pouvoir dire quand je crois qu'il se trompe. Et je pense que les décisions prises à Paris, centralisées, uniformes et parfois aveugles, parce que nous n'avons pas toujours les données scientifiques qui nous permettent de justifier des décisions qui sont prises, nuisent à la confiance que les Français ont dans la décision politique.
Professeur Juvin, l'Allemagne a d'ores et déjà préparé des entrepôts de stockage destinés, des équipes mobiles pour la vaccination. Bref, un plan détaillé. Et nous ?
Vous parlez de la vaccination, effectivement. Les Allemands ont déjà décidé les 60 endroits sur le territoire national où serait stocké le virus à moins 80. Vous voyez la logistique très lourde. La chaîne du froid doit être respectée. Ils ont décidé les endroits où dans chaque région, il y en a 4 à 15 endroits par région où on serait vacciné. Ils ont décidé qui serait vacciné en priorité. Bref, ils sont en avance, ils ont un plan de vaccination. Nous devons faire pareil. Et nous avons encore du retard.
Attendez, nous n'avons pas encore de plan de vaccination. Le professeur que vous êtes, on n'en a pas connaissance.
Eh bien, à ma connaissance, il n'y a pas eu de décision prise pour savoir où on allait entreposer le vaccin, où on allait, qui allait vacciner, où on allait vacciner, dans quelles conditions et quelle population.
On ne sait pas combien de doses, pour qui, comment, où.
Exactement, il y a beaucoup d'inconnus. On a raté la vaccination contre la grippe cette année, puisque je vous rappelle que vous voudriez vous faire vacciner, vous, Sonia Mabrouk, vous ne pouvez pas vous faire vacciner cette année, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de vaccins. Moi, je souhaite que, rapidement, il y ait un grand débat national, comme les Allemands l'ont fait, et ça ne nuit pas à la décision politique, le fait qu'il y ait un débat, vous voyez, la preuve. Les Allemands ont déjà décidé, alors que nous n'avons pas encore décidé, et pourtant, ils ont mis tout sur la table.
Et c'est le professeur Juvin qui appelle aujourd'hui à cette transparence, notamment sur la politique vaccinale, n'est-ce pas ?
La politique vaccinale, c'est notre chance. Vous voyez, c'est une très grande chance, c'est un espoir. Mais cet espoir, eh bien, il faut le traduire maintenant en acte. Ça va être compliqué de vacciner toute la population et donc il faut y travailler sérieusement. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater la vaccination comme nous avons raté le déconfinement.
Merci beaucoup Philippe Juvin d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Ne ratons pas la vaccination comme nous avons raté le confinement, nous dit Philippe Juvin.
Le déconfinement, pardonnez-moi.
À réfléchir, à méditer dans les semaines à venir et à répéter dans le bon ordre. Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h27 sur Europe 1. Très bon réveil si vous nous rejoignez à suivre l'info avec Hélène Zélani.
Europe Matin.
Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1. Un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Nous sommes en train de reprendre le contrôle de l'épidémie, mais nous n'avons pas encore vaincu le virus. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui l'affirme. Moins de contamination, des entrées en réanimation au plus bas depuis 3 semaines. Ce matin, à 7 et 8 heures, nous avons fait un tour d'Europe des différentes stratégies anti-Covid. Finlande, Suisse, puis Slovaquie, Italie et Suède. À 7h40, Sylvie Briand, directrice à l'OMS chargée des risques épidémiques, était en direct sur Europe 1. L'objectif maintenant, selon elle, c'est que la transmission diminue pour que les systèmes de santé puissent gérer.
En ce moment, l'Europe, pour des raisons d'une part climatique, puisqu'on rentre dans la saison hivernale et qu'il y a toujours beaucoup plus de virus respiratoires circulant durant cette saison. Donc l'Europe, effectivement, fait face en ce moment à une vague de transmission. Les pays vont être tous atteints, mais pas forcément en même temps. Donc on va avoir des vagues successives dans différents pays. Donc là, maintenant, ce qui est important, c'est d'essayer de voir que certains pays qui passent le pic et qui vont avoir une décroissance ne retrouvent pas, en fait, une transmission qui explose par exemple autour de Noël ou de janvier. Donc il va falloir essayer de maintenir la transmission à un niveau assez bas pour que tous les systèmes de santé puissent faire face.
Sylvie Briand, directrice à l'OMS chargée des risques épidémiques, invitée de Mathieu Béliard à 7h40. La parole au représentant des cultes, Jean Castex, se joint tout à l'heure à la rencontre prévue avec son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Hier, des milliers de catholiques se sont rassemblés dans plusieurs villes pour réclamer le droit d'assister à la messe. Il y a plus de 5 ans, un terroriste tentait de commettre un attentat à bord d'un Thalys. Il avait blessé 2 personnes avant d'être désarmé par des passagers du train, 3 Américains notamment. Le procès de ce djihadiste s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Qui est-il ? Réponse avec Gladys Lafitte.
C'est l'un des rares terroristes à être encore en vie après son acte. Ayoub El-Kazani, un Marocain de 31 ans aujourd'hui, fait aussi partie d'une cellule djihadiste désormais bien connue, rappelle Maître Thibault de Montbrial, avocat de passagers du Thalys.
Il faisait partie de ce qu'on appelle le commando Abaou, qui avait plusieurs cibles au sein du territoire européen pendant l'année 2015-2016. C'est également le même commando qui a attaqué Paris le 13 novembre, puis Bruxelles en mars.
Alors les parties civiles ont l'espoir qu'il explique comment ces attentats meurtriers ont été planifiés depuis la Syrie. Mais Ayoub El-Kazani a d'abord gardé le silence pendant 18 mois, puis il a expliqué qu'il ne voulait pas commettre une tuerie de masse, qu'Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats du 13 novembre, lui aurait demandé de viser seulement les 3 soldats américains à bord, alors en vacances et sans uniforme. Une version jugée peu crédible par les juges d'instruction. Selon eux, si un massacre a été évité, c'est grâce à l'intervention héroïque des passagers du Thalys et du mauvais fonctionnement des armes du terroriste.
Un autre procès s'ouvre dans une demi-heure, celui de Jonathan Daval devant la cour d'assises de Haute-Saône. Il est accusé du meurtre de sa femme Alexia il y a 3 ans. Un exercice d'équilibriste pour Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui à l'Élysée le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, fervent soutien de Donald Trump, qui a d'ailleurs encore tweeté en majuscule ce matin « J'ai gagné l'élection ». Emmanuel Macron, qui dans une interview à la revue en ligne Le Grand Continent, dénonce la relative timidité du soutien international après les derniers attentats en France. Le président ajoute que notre pays ne va pas changer son droit sur la liberté d'expression parce qu'il choque ailleurs. Le Vendée Globe, le Britannique Alex Thompson accroît son avance sur Jean Le Cam. L'un des favoris, Jérémy Bayou, est toujours au Sable d'Olonne après une série d'avaries. Il décidera aujourd'hui s'il reprend la mer. La Formule 1, Lewis Hamilton égale le record de 7 titres mondiaux de Schumacher. Le Britannique a remporté hier le Grand Prix de Turquie, un titre qu'il dédie aux enfants avec ce message. Rêvez l'impossible, poursuivez ce rêve et ne doutez jamais de vous. Autre histoire de quelqu'un qui va au bout de ses rêves, mais ça a bien failli mal se terminer. En Australie, un homme de 91 ans a eu un accident de parachute près de Sydney. Il est tombé dans l'océan, mais il a été récupéré sain et sauf avec juste quelques égratignures.
Ah oui, j'ai pas une grande expérience du parachute, on va pas se mentir, hein, mais vous tombez au milieu de l'océan, ça doit quand même un peu réveiller. Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 8h30 sur Europe 1. 8h34.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol, je sais que vous êtes pilote. Je ne sais pas si vous êtes parachutiste, mais...
Non, pas parachutiste, non.
Parachuté au milieu de l'océan.
Ah oui, oui, ça doit dire, ça fait quand même quelque chose. La température doit être, la température de l'eau, autour de 10-11. Hein. Au milieu de l'océan, 10-11, avec parfois 8 degrés. Alors, il fait 12 degrés, puisqu'on parle température, allons-y. 12 degrés à Saint-Étienne, ce sera le 4 cet après-midi, hein, bien sûr, pas tout de suite. 13 à Lille et Dijon et Toul. À Bourges, Clermont-Ferrand, Colmar, Paris, Limoges, Saint-Thierry-et-la-Perche, 14 degrés. 15 à Rennes, Lyon et Poitiers. Toulouse et Angoulême, 16. 17 à Saint-Jean-de-Luz et Bordeaux, 18 à Salon de Provence et 20 degrés en Corse. Voilà pour les températures. Au fil des heures, comme le temps n'est pas très folichon ce matin, bien au fil des heures, nous aurons un ciel qui va se dégager très timidement. Mes enfants, il fera relativement beau, excepté en Lorraine, Alsace, Dijonais et en région Rhône-Alpes. Nous aurons encore pas mal de nuages et même des averses. Et parfois de la neige, tiens, à 1500 mètres d'altitude. Pour demain, mardi, ce sera beau. Après les brumes et les brouillards, là, il y en aura un. Non, un sacré nom. Après,
vous bon. Demandez la prochaine fois, Laurent, on fera des effets spéciaux en régie. Il n'y a pas de problème, on peut le faire.
Et puis mercredi, ça sera beau aussi, surtout sur la moitié sud. Et puis un petit peu de pluie sur la moitié nord, mais seulement sur la Bretagne. Ailleurs, ce sera plutôt agréable.
C'est dur de siffler avec un masque. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h36 sur Europe 1, dans un instant on prend soin les uns des autres, notre santé, Jimmy Mohamed, et notre planète avec Fanny Agostini. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé, c'était samedi dernier la journée mondiale du diabète. Et vous avez ce matin, vous vouliez nous informer sur le risque de devenir diabétique si on manque de sommeil.
Eh oui, alors le diabète, c'est 4,5 millions de Français, dont 1 million qui s'ignore, qui n'est pas au courant qu'il a du diabète. Donc, raison pour laquelle il faut se dépister et ne pas hésiter à faire des prises de sang. Alors, on sait que quand, lorsque vous êtes diabétique...
Je déduis qu'il y a un diabétique sur... 4 en gros, qui ne sait pas qu'il est diabétique.
Exactement. D'accord. Raison pour laquelle il faut faire des prises de sang. Vous faites ce qu'on appelle une glycémie à jeun, le taux de sucre, et ça vous permet de savoir si vous êtes diabétique. Donc allez le faire au moment.
À partir de quel âge ?
À partir de 35-40 ans, on peut aller se faire une prise de sang pour essayer tout va bien. Alors, on sait qu'il y a des facteurs de risque de devenir diabétique, à savoir l'obésité. Si jamais vous avez des antécédents dans la famille de diabète, vous avez plus de risques, vous, d'être diabétique. Et même chose pour l'inactivité. Bien, sachez que le manque de sommeil serait tout aussi important que ces facteurs de risque. Ça augmente votre risque de devenir diabétique de 30 à 50%. On sait que c'est particulièrement vrai chez les personnes qui vont se coucher tard et se lever tard, puisque leur repas va être moins bien métabolisé, il va être moins bien assimilé. Et on sait aussi que chez les travailleurs de nuit, l'horloge biologique, celle qui va déterminer la veille et le sommeil, va être perturbée et vous allez moins sécréter une hormone qui est responsable de la satiété. Vous allez donc plus manger, prendre du poids et déclencher du diabète. Et enfin, chez les diabétiques, ceux qui ont un sommeil court régulent moins bien leur taux de sucre et donc ont un diabète déséquilibré.
Et ce manque de sommeil, il pourrait du coup entraîner d'autres pathologies que le diabète ?
De nombreuses pathologies, j'ai décidé d'en choisir uniquement trois, celles qui m'ont le plus marqué. La première, évidemment, c'est les troubles de la vigilance. Après une nuit compliquée, on sait que le lendemain, on est un peu dans le brouillard. Eh bien, sachez que des Australiens ont fait une étude et ils ont privé de sommeil des adolescents, des jeunes, pendant 24 heures. Et ils se sont rendu compte que le manque de sommeil durant 24 heures, eh bien, était équivalent à avoir 1 gramme d'alcool dans le sang. Donc évidemment, il y a un risque d'accident, mais ce n'est pas tout. On sait que le manque de sommeil, en particulier chez la femme, augmente le risque de cancer du sein. Et puis, il ne faut pas oublier que le cerveau, la nuit, élimine les toxines. Et il y a un phénomène assez extraordinaire, c'est que la nuit, l'espace entre les neurones, l'espace entre les cellules augmente de 60%. L'espace augmente pour éliminer les toxines, toxines qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer. Donc, pour prendre soin de sa santé, eh bien, ça commence par bien dormir.
Bon, les travailleurs de nuit qui sont à l'écoute, là, il y en a quelques-uns. C'est pas rassurant, mais ça donne quelques conseils, cela dit. Et puis, oui, allez se faire dépister, du coup. Un diabétique sur quatre s'ignore, si je vous suis. Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve de 15h à 16h avec Mélanie Gomez. Sans rendez-vous. 8h40 sur Europe 1, nous retrouvons Fanny Agostini, notre planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On écoute, c'était cette nuit.
5, 4, 3, 2, 1.
Eh oui, le lancement d'une fusée depuis Cap Canaveral en Floride. C'était pas arrivé depuis de nombreuses années depuis Cap Canaveral. C'est SpaceX, la fusée d'Elon Musk, réutilisable en plus. Le premier étage de la fusée doit revenir. Voilà le maximum de l'écologie aujourd'hui pour ce qui est des lancements de fusées. Fanny Agostini, le recyclage du premier étage de la fusée. Mais après le tour du monde en avion solaire, vous nous dites qu'il serait possible, rien qu'à l'énergie solaire, d'aller dans l'espace, ou presque ?
Oui, oui. Alors c'est vrai qu'on a tous en mémoire l'exploit de Bertrand Piccard. Vous vous souvenez, le premier homme à avoir tenté et réussi en 2015 un tour du monde à bord de son avion solaire, le Solar Impulse, sans utiliser une seule goutte de carburant. Eh bien, dans la même veine, vous allez très prochainement découvrir Solar Stratos, un avion qui d'ici 2022 va tenter d'aller le plus haut possible aux frontières de l'espace, et cela toujours à l'énergie solaire.
L'homme qui s'est lancé ce défi n'était pourtant pas destiné à ce genre d'exploit.
Mais alors, pas du tout. Cet homme, ce n'est pas un cosmonaute ni un aviateur, d'où l'admiration que l'on peut avoir pour lui. Il s'appelle Raphaël Donjean, un Suisse de 48 ans, qui est, à la base, ambulancier. Oui, cette idée est née d'abord d'une prise de conscience de sa part de l'accélération du changement climatique après avoir vu de ses yeux fondre un glacier islandais dans un laps de temps très court. Il a eu envie de contribuer à faire avancer la science et à prouver qu'on pouvait éviter de balancer dans l'atmosphère plus de 30 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Il a donc fait le pari du solaire en étant le premier homme à faire le tour du monde en bateau, un bateau qui fonctionnait grâce à la puissance du soleil en 2010, et puis depuis, plus rien ne l'arrête. Il a même inventé un kayak solaire pour rallier le pôle Nord et le pôle Sud à la force de ses bras et du soleil.
Dans le sillage de Bertrand Piccard, il va prouver que l'énergie solaire peut permettre l'impossible.
Parce que c'est vrai que sur le papier, ça paraît techniquement quand même très très ambitieux cette affaire. Monter à plus de 15 km d'altitude dans la couche supérieure de l'atmosphère que l'on appelle la stratosphère, si haut que l'on perçoit la rotondité de la Terre. On est vraiment là aux portes de l'espace. Et cela fait 6 ans qu'il se prépare, lui et son équipe, pour monter cette mission et repousser les limites technologiques pour que, comme l'a fait Bertrand Piccard il y a 5 ans, prouver que d'autres alternatives efficientes sont possibles pour se passer des énergies fossiles. Raphaël Donjean, qui se dit éco-explorateur, un explorateur donc utile à l'écologie, voudrait que demain, l'énergie du soleil soit l'une des énergies en laquelle on peut croire, en laquelle les gouvernements vont parier pour atteindre la neutralité carbone en 2050 en se lançant dans de grands plans d'investissement et faire ainsi disparaître à jamais le pétrole de nos moteurs.
Et finalement, c'est lié avec ce que disait Nicolas Barré dans l'éclairage éco à 7h15 ce matin. Boris Johnson qui annonce la fin des véhicules thermiques pour 2030. C'est un lien. Fanny Agostini, Notre Planète. Merci beaucoup Fanny, 8h43. À suivre, la revue de presse avec Nicolas Canteloup, bien sûr, et Julie qui s'installe.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les principaux titres de l'actu.
Oui, bonjour, ma chère Julie. C'est Mathieu Béliard. C'est la grande messe, vous l'avez compris, la grande messe de l'actu avec Saint-Mathieu sur Europe 1, bien sûr. Et ça tombe bien, parce que l'info du jour, chers auditeurs, c'est que ce week-end, des catholiques ont manifesté, on en a parlé, pour demander la réouverture des églises. Bravo, oui, bravo. Alors, bravo, je ne sais pas, bravo les cathos. Après la manif pour tous, ils inventent le Covid pour tous. Ça risque de flinguer toutes nos personnes âgées. On passe donc de un papa à une maman à plus de papy ni de mamie.
C'est dur.
L'autre info, c'est l'ouverture du procès de Jonathan Daval, accusé du meurtre de sa femme. On se souvient qu'il avait, dans un premier temps, menti à sa belle-famille. Et c'est vrai que là, on peut se poser des questions. Loin de moi, l'idée de le défendre, mais mentir à sa belle-famille, quand même, c'est la base. C'est la base. Ah, tout le monde le sait, vous savez. Heureusement qu'on va pas en prison dès qu'on dit à sa belle-maman qu'elle est de toute beauté ou que son gigot est très bien cuit. Alors que c'est faux. Bon, pardon, attendez, excusez-moi. Priorité au direct, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive... Excusez-moi, monsieur. Il y a quelqu'un qui arrive dans le studio.
Pardon. Excusez-moi, bonjour, excusez-moi, je vous dérange, je ne sais pas. J'étais invité à la matinale de Sébastien Krebs et je cherche tout simplement la sortie. Voilà, parce que je n'ai pas mes lunettes.
Oui, je n'ai pas mes lunettes. Oh, ouais, autodérision, les handicapés ont de l'humour. Oh, bah, ouais, oui. Liberté.
Surtout vous, hein, pour l'humour, Gilbert Montagnier, bravo. On va vous indiquer la sortie, vous inquiétez pas.
Il t'a invité à 5h40 ce matin.
C'est la vie.
Il cherche depuis 5h40. Oui, il faut dire que nos locaux sont un petit peu...
Ça nous permet de redire un mot de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Voilà.
Allez, on va parler. Parlons d'autre chose. On va parler des mémoires de Barack Obama dans les bonnes feuilles publiées par le JDD. On peut lire que Barack Obama qualifie Nicolas Sarkozy de coq nain qui bombe le torse. Bonjour Nicolas Sarkozy.
Ça vous fait sourire. Mais quelle indignité, même pujadas. Franchement, me comparer, moi, à un animal. Non mais... Je me compare... Un Cockney qui bombe le torse. Mais, non, mais imaginez un peu l'inverse. Si dans mes mémoires, moi, j'avais comparé Barack Obama à des animaux. Hein, je peux d'ailleurs, ouvrons la parenthèse, je peux même pas vous dire de quels animaux, vu qu'on n'a plus le droit de parler des singes.
Oula, mais, oula, oula.
Vous imaginez le scandale que ça aurait fait.
Ah oui, je vous confirme que c'est scandaleux, effectivement, c'est scandaleux.
Ah oui, oui, mais ça, par contre, contre moi, ça, bien sûr, ça, on a le droit de me comparaître à un animal qui est en plus nain. Un nain de surcroît, un animal nain.
Non, mais, alors que, franchement,
tout ça, c'est de la calomnie calomnieuse pour m'infamer de façon infirmante. J'ai un témoignage, d'ailleurs, qui le prouve.
Ah bon, un témoignage?
Oui, attendez, qui? Deux secondes. Ziad, tu peux venir, sors de la loge de maquillage.
Ah, c'est Ziad.
L'équipe est en place.
Ziad.
Voilà, on va faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va faire un petit peu de silence. Voilà, on tourne la scène 2. Hein, Sarkozy est tellement grand qu'il aurait pu jouer aux Lakers. Attention, ça tourne. Action. Moi, Ziad Takeddine, je l'affirme sur l'honneur, Nicolas Sarkozy, il n'est pas un nain. Voilà. Je l'ai mesuré personnellement, il fait 1m82, 83. Voilà. C'est tout. Et puis là, au fait, il n'a jamais touché l'argent de Kadhafi.
Bon,
c'est bon, ce qu'ils ont coupé. On la garde,
elle est bonne.
Heureusement qu'il est là, tiens, Kédine.
Ah ben, comme vous dites, oui, merci, M. Sarkozy. Allez, il fait la une du magazine Voici cette semaine, François Hollande. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, tout guilleret. Ben. Alors, après Julie Gayet dans Closer, c'est Voici qui publie des photos de vous avec une danseuse de l'Opéra Garnier.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Je confirme cette information.
Bon.
Normal, une danseuse, elle aime les corps, les bodies. Forcément, elle est tombée amoureuse de moi, petite. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait un petit peu de danse, d'ailleurs, dans ma jeunesse.
Ah bon?
Oui. On m'appelait Fred Auster.
Bien.
Oui, parce que j'avais augmenté les cotisations de l'opéra de Tulle, en Corrèze. En opéra, mon truc, c'était plus le... J'étais plus sur le gâteau.
Ah, le gâteau, l'opéra, oui, d'accord.
Oui, du chocolat,
oui,
une mousse,
le gâteau au chocolat, très bien. Tiens, il y a Ségolène Royal.
Parle de la recette à l'antenne.
Pardon, ça vient d'arriver au cerveau, excusez-moi.
Ben oui, c'est pour
on
ça qu'on
est pas chez M. Mariotte, le chocolat.
De temps en temps, on doit expliquer.
On pourrait en parler avec Olivier Pulse.
Bon, il y a Ségolène Royal qui est là, qui arrive. Bonjour, Madame Royal.
Bonjour à tous et bonjour au Georges Clounesque de Tulle.
Georges Clounex, vous l'appelez?
Oui, Georges Clounesque. Oui, je voulais simplement mettre en garde cette jeune fille, cette jeune danseuse. Mmh. Est-ce que, mademoiselle, vous avez conscience que cette personne est malade, hein? Il m'a trompé. Il a trompé Valoche, il a trompé Langoyer, il a trompé les Français, surtout en leur promettant d'inverser la courbe du chômage. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui va vous arriver, hein? Je vous donne un indice, ça commence par tronc et ça finit par « et ».
Eh ben, elle est prévenue, la danseuse, hein, désormais.
Oui.
Merci, Ségolène Royal.
Oui. Bah, tiens, bien sûr.
Emmanuel Macron qui nous rejoint maintenant. Qu'est-ce qu'il y a comme monde ce matin? Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, François. Ça va à la maison? Pas trop dur en ce moment avec Julie?
Oh, ça va. Un peu comme toi avec la France. Elle me fait la gueule.
Tiens, au fait, j'avais une question pour toi, cher François. J'ai lu hier dans Le Point une interview de Julien Drey qui dit « Pour 2022, François Hollande se dit « Pourquoi pas moi ?» C'est toujours comme ça qu'il a fonctionné. Hein, c'est vrai?
François Hollande, vous en dites quoi?
Oui, c'est vrai, j'ai toujours fonctionné comme cela, avec la France comme avec les meufs. Je me dis pourquoi pas moi? Des fois, ça passe. Allez, ça va, pourquoi? Parce que, bon, on va pas se mentir, entre vous et moi, je n'ai pas non plus un physique si exceptionnel que ça.
On vous confirme que non. Merci à tous les deux. Merci. Allez, à Nantes, à Versailles, des catholiques ont réclamé le retour de la messe. Une manifestation a même eu lieu à Nantes, au cri de « Rendez-nous la messe
». Rendez-nous la messe! Rendez-nous la messe! On veut la messe, pas des CRSS!
Ah oui, c'est bon, merci, bonjour, monsieur Devigny.
Oui, bonjour, femelle. Voilà la glorieuse situation, hein, les catholiques privés de la messe. Non, mais on en est réduit à faire, vous rendez compte, des prières de rue! comme les mahométans de Clichy-la-Garenne.
Non, mais on peut quand même se passer de la messe deux ou trois fois pour des raisons sanitaires. Et puis tous les catholiques ne vont pas à la messe d'ailleurs. Hein.
Ils ne vont pas à la messe, oui, bien à la place, ils vont en enfer quand ils meurent s'ils ne vont pas à la messe. La messe est indispensable pour laver son âme, le clerc. C'est un plaisir, la messe. C'est un peu comme une rêve partie pour les catholiques.
Oula.
Oui, si, une rêve partie, sauf qu'on a remplacé l'ecstasy par des hosties, voilà, c'est tout. Mais c'est là que nous nous éclatons. On regarde un crucifix en demandant pardon et ça, c'est génial.
Eh ben, ça a l'air, hein, effectivement.
L'autre jour, à ma paroisse, nous sommes levés pour chanter « Dieu, punis-moi, flagelle-moi, Seigneur ». Puis nous sommes agenouillés sur le sol en pierre de cette grande église sans chauffage. J'ai ressenti un tel bonheur.
Ah, j'entends bien, ça a l'air très exaltant, hein, ce que vous racontez. Puis vous le vendez bien, surtout. Hein. Mais il faut quand même que tout le monde joue le jeu. Les commerces, les lieux de culte. Hein,
parlons-en des commerces, on les subventionne, on en ouvre la moitié. L'économie passe devant la messe, c'est ça, c'est la priorité, c'est commerce. Eh bien moi je dis non, non au business, oui à la messe. Hein, si t'es fier d'être catholique, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être catholique, demande pardon.
Oh là 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 là.
On veut la messe, pas de CRS. On veut la messe, en foulard Hermès. Darmanin, on veut la messe. Darmanin, je te montre mes fesses.
Oh, ne faites pas ça, malheureux. Non, non. Philippe de Villiers, à bientôt. Les Pyrénées-Orientales sont placées en alerte élevée de grippe aviaire. Les éleveurs sont obligés de confiner les volailles pour éviter que la maladie ne se répande.
Ah, monsieur Lee. Ah, monsieur Lee, vous m'entendez?
Ah, mais oui, on vous entend.
Oui, monsieur Villiers, monsieur Gavroche, monsieur Mamad. Quel drame, cette grippe aviaire. Je suis sûr que Fanny Agostini est dans le même désarroi que moi. Vous imaginez devoir confiner nos volailles? Mais je suppose les conséquences. Monsieur Béliard va être déconfit d'avoir un confinement sans confit.
Oh là là!
Oui, je me suis mis aux lames. Je fais mon signe. Je suis sous le nom de Gronet Malade.
Bon, écoutez, monsieur Lassalle, si on pouvait être sérieux deux minutes, hein, allez.
Oui, pardon, excusez-moi, je me suis dispersé, je me suis égaré. Écoutez, confiner les volailles. Voilà. Je dois vous confirmer mon quotidien, le quotidien de mes amis agriculteurs que j'ai visités dans les étables, les poulaillers plus exactement, les étables, parce que la volaille ne s'élève pas dans une étable.
Non, mais oui, c'est bon, allez, au fait.
Écoutez, les confiner volailles, c'est très compliqué pour notre économie. Je prépare en ce moment un plan qui consistera à vivre avec le virus.
Oula.
Ma femme, parce que c'est impliqué, a cousu des masques FFP2 un bec de canard pour les volatiles. Mais alors, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas savoir de mettre des masques à des dindonos. Et puis, avez-vous essayé de faire respecter des gestes barrières à des poules?
Oh, ça ne doit pas être simple, là, on imagine.
Ce n'est pas simple. Se laver les ailes. On leur donne les consignes, on leur répète. Je le répète, lavez-vous les ailes, toussez dans vos plumes. Mais c'est trop difficile. On a dû installer de vraies barrières. Et puis, je ne vous parle même pas des attestations. Les attestations, vous allez voir. C'est compliqué. C'est pas simple. On fait le faire en direct, parce que vous avez une émission une radio de direct.
On se détache quand même, oui, allez.
Saturnin, mon petit Saturnin. Petit Saturnin, viens voir papa. Voilà. Ça, c'est un iPhone. Tu vois, un iPhone, c'est un petit téléphone, papa. Appuie sur le bouton pour fabriquer une attestation. Vous voyez, il galère. Il galère, il n'y arrive pas. Rien n'est adapté pour les animaux.
Saturnin.
Il n'est pas content, il se sent frustré parce qu'il ne comprend pas notre monde.
Mais attendez, vous pensez quoi? Qu'on va devoir tous les abattre, ces animaux?
Tous les abattre, j'espère pas. Ou alors, si on abat toutes les créatures qui ne savent pas mettre un masque correctement ou télécharger une attestation, il ne va pas rester grand monde en France.
Comme vous dites.
Bravo à Nicolas Canteloup. Merci Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse qu'à retrouver sur Europe 1.fr. 8h58, Philippe Vandel est là. Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. L'info média du jour, c'est le retour de The Crown, la série événement sur le règne de la reine d'Angleterre. 4e saison sortie hier sur Netflix. Est-ce que c'est à la hauteur des attentes? La réponse est oui. Comment expliquer un tel succès? Réponse avec Corentin Lamy. Il est journaliste au Monde. Il sort un livre passionnant sur The Crown. Et Eva Rock, l'une des spécialistes séries d'Europe 1. Et puis le patron de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, et la journaliste Marie Perraube, pour parler de la première série documentaire de la chaîne qui s'intéresse à l'affaire Daval, dont vous avez beaucoup parlé ce matin, évidemment, car le procès s'ouvre aujourd'hui. Enfin, l'acteur Antoine Duléry publie son autobiographie sur ses débuts d'imitateur qui l'ont mené à son métier d'acteur. Il transforme, dit-il, le spectateur en un lecteur heureux. C'est lui qui le dit, on en est ravis.
Eh bien, rendez-vous juste après le journal Culture Média, 9h-11h, la matinée continue avec Philippe Vandel. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très belle journée, un très joli lundi. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.